Et c'est parti, l'avant-match OL Paris Saint-Germain, c'est le rendez-vous du samedi midi 30, on est avec la team. Aujourd'hui, il y a Dreas, Lolo, Kevzor et Basto. On va déjà donner nos pronos pour le match, parce que la semaine dernière, Kevzor, il a donné un prono gagnant. On va voir si ça continue cette saison, cette semaine. Il avait dit 3-1. Alors, on va commencer avec Dreas. Dreas, c'est quoi ton prono pour le match de demain?
Alors, attends, de demain, c'est...
Lyon-PSG.
Ah oui, on parle de
comment tu t'affiches dès le début, c'est terrible.
J'étais en train de cliquer dans tous les sens parce que je les avais plus en tête. Lyon-Paris, hein, Lyon qui est amorphe totale. Paris qui doit confirmer, mine de rien. Donc, je partirai sur un 3-1 pour Paris, moi.
Lolo.
Je mettrai 4 buts à 1 pour Paris.
Et ça me rappelle des souvenirs. Et toi, Kevzor?
Moi, je mets un 3-0.
Basto
2-1.
Ah, moi je vois pas un match serré comme ça. Moi je crois que je vais rester sur Dreas et 3-1 encore. Ok, du coup, Basto, toi qui es un fervent défenseur de la Ligue 1, qui regarde quasiment tous les matchs, même les matchs qui sont nuls, mais vraiment nuls.
J'ai vu le Nice-Lyon notamment la semaine dernière.
Voilà, que je savais que j'allais jamais regarder. Je crois que Lolo aussi il a fait la même erreur. Force à vous les gars. Basto, de tous les matchs que tu as déjà vus cette saison et aussi tu connais un peu Laurent Blanc, qu'est-ce que tu penses que Lyon va proposer dimanche?
Du Laurent Blanc, c'est-à-dire du vide pour le moment dans ce début de saison. En vrai, l'année dernière, il avait su redresser en deuxième partie de saison Lyon qui finit troisième sur la phase retour, mais ça dépendait essentiellement des perfs de Cherki, Barcola et Lacazette. Mais il n'y avait pas un collectif qui était surdéveloppé. Et puis des arrêts d'Anthony Lopez, c'était vraiment des individualités plus qu'un collectif. Blanc n'arrive pas à trouver ses marques à Lyon. Lyon est une équipe assez ennuyante à regarder, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Et en plus, maintenant, on a des choses extra-sportives cette saison qui prennent le dessus, avec l'affaire Olas, Vestextor, la DNCG, le recrutement encadré. Et Lyon s'est fait un peu piller avec les départs de Barcola, les départs de Lukeba. Ils ont fait enfin leur 6 dans l'urgence hier, mais ils ont pris un remplaçant du Betis Séville pour être titulaire au milieu. Donc, il n'y a rien qui est clair dans cette équipe de Lyon, que ce soit en dehors du terrain et encore moins sur le terrain. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a vu un Lyon en prépa dans les premiers matchs qui prenait énormément de buts. Contre Nice, ils ont décidé de venir en défendant. Ça, ils ont défendu, ça, on l'a vu. Mais ils n'ont pas beaucoup attaqué puisqu'on a vu 90 minutes de... À Lyon, franchement, à Nice, c'était ridicule. Ils étaient coupés en deux complètement. Il n'y avait pas de milieu. C'était... Mais sans être dangereux. C'est incompréhensible. Donc non, Lyon, ça va être très compliqué. Je pense qu'ils vont attendre Paris. Hein. Je ne les vois pas venir attaquer, même si souvent les PSG Lyon, on voit des Lyons offensifs. Je ne pense pas que ce sera le cas demain. On va voir un Lyon qui va éviter de prendre un gros score, qui sera limite content s'il ne perd que d'un but d'écart. C'est pour ça que j'ai mis 2-1. Donc voilà. Après, on ne sait jamais avec cette équipe. Hein. Elle peut montrer un autre visage d'un coup, du tout au rien. Mais a priori, ce n'est pas demain que ça changera.
Et pour compléter ce que tu dis, Basto, aussi, Tagliafico, par exemple, qui n'est pas parti, qui voulait partir, et qui concrètement, depuis deux matchs, n'est plus dedans et n'est pas performant. Quoi. Donc, il y a des joueurs qui n'ont pas eu leur bon de départ et qui ne sont pas forcément, du moins pour le moment, investis à 100% dans le projet lyonnais.
Tout à fait.
Lolo, toi qui as regardé notamment Nice-Lyon, est-ce que tu penses que, par exemple, Lyon va prendre une valise ou qu'est-ce qu'ils vont proposer dimanche?
J'y crois à la valise. Pourquoi? Parce que défensivement, je les ai trouvés assez faibles et les oppositions sur lesquelles ils ont pu jouer, que ce soit Montpellier, que ce soit Nice ou même Strasbourg en début de saison, ça a été très compliqué. C'est hyper poussif. Ils ont du mal à remplacer ceux qui sont partis, notamment Lukeba. Rio, c'est limite catastrophique. Franchement, je pense que Paris, s'y arrive à ouvrir le score assez rapidement, ça peut faire ficelle très, très, très vite et ça peut s'enchaîner. Et moi, c'est pour ça que je crois en fait au score un peu plus large, un petit 4-1, 3-1, voire un peu plus. Mais je sens que Lyon va prendre son truc ce week-end. J'espère en tout cas.
Marius.
Déjà l'absence de Lacazette qui n'a pas été nommé mais qui est un vrai souci, le 6 dont Basto a parlé, non seulement il vient, c'était un remplaçant, mais en plus de ça il n'aura pas le temps d'être titulaire, donc on va se retrouver avec un milieu qui peut vite prendre l'eau, en plus d'une charnière qui a vraiment pas d'assises, qui arrive pas à se remettre du départ. Je pense qu'avec Paris, avec les flèches qu'à Paris, ça va passer, ça va trouver des espaces. Je pense que Paris mettra des buts et moi je serais surpris si avec un seul but d'écart, parce que je vois un Lyon fébrile. Donc c'est vrai, ils vont pas forcément attaquer, mais ils sont aussi fébriles derrière. Ils ont eu zéro certitude et ils vont très souvent être mis en danger, j'ai l'impression.
Gelsor, la semaine dernière, on avait dit qu'on avait un Luis Enrique, qu'on savait pas s'il allait imposer son système ou s'il allait s'adapter à l'adversaire comme il a fait un peu face à Lens. Quel Paris Saint-Germain tu penses qu'on va avoir dimanche? Est-ce qu'on va, vu qu'on va affronter une équipe un peu faible, comme certains l'ont dit ici, il va imposer son style, ou est-ce qu'il va essayer de s'adapter à Lyon et trouver leurs failles, notamment avec pas mal de vidéos, etc.
Et moi, j'ai l'impression que Lyon, déjà, n'arrive pas à tenir le ballon. Ils ont un milieu de terrain qui s'est quand même relativement affaibli cette saison, donc je pense qu'ils vont nous attendre. Ils vont jouer relativement bas. Je ne les vois pas venir nous chercher en sachant qu'ils n'ont aucune certitude, qu'ils ont pris un point dans trois matchs, qu'ils sont relégables. Que concrètement, là, c'est pareil. Hein, à ce qui se dit, si Laurent Blanc venait à perdre encore une fois, il serait évincé. Donc, je pense que concrètement, on va avoir un PSG très, très offensif. Je pense qu'il va adapter, pas forcément, honnêtement. Je pense vraiment qu'il va imposer, là, plutôt qu'adapter. Je pense que le PSG va avoir énormément d'occasions. Et je pense que Luis Enrique va vraiment imposer ce qu'il veut mettre en place. Là, je pense qu'en termes de jeu, on aura la possession.
Bon, Basto, t'as levé la main avant Fred Rayet.
Ouais, je regardais juste la compo probable de Lyon et on voit à quel point ils sont sans certitude. C'est-à-dire qu'ils vont mettre deux recrues titulaires demain d'entrée. C'est Nwama et Mamaldé devant en attaque. Donc, ils se retrouvent avec deux joueurs qui viennent d'arriver et qui vont être titulaires d'entrée. Donc, deux joueurs sur le trio d'attaque qui ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais joué ensemble. Et effectivement, ce que disait Kessler, c'est qu'ils jouent en 4-2-3-1, là ils vont jouer en 4-3-3-1, Cherki ne sera pas 10 israélien, donc ils vont venir de manière plus prudente avec un milieu à 3 demain.
Ouais, je voulais dire que Lyon, c'est ça que je pense pas, hein, c'est trop tôt quand même. Je voulais dire que Lyon, ils savent pas jouer à 11 derrière en fait. C'est pas dans la culture du club, c'est pas dans l'histoire du club, c'est pas quelque chose qu'ils savent faire. Et donc les espaces, il y en aura. Et je pense que pour le coup, tu établis la même stratégie que ce que tu as fait contre Lens en deuxième mi-temps, et tu arriveras à trouver les espaces, parce que c'est pas Lyon joue en bloc bas. Je pense pas qu'ils savent faire. C'est pas dans leur gène, c'est pas dans leurs habitudes, quoi.
Vraiment. Même pas dans l'habitude de Laurent Blanc aussi. Blanc, c'est pas quelqu'un qui va forcément mettre le bus derrière ou quoi. Il est pas connu pour ça, donc ils auront quand même. Au moins peut-être la qualité de trouver la première passe à la relance avec un Tolisso, peut-être le Penant, peut-être un Cacré, ce qui peut être intéressant, mais offensivement c'est faible, défensivement c'est faible. C'est pour ça que en termes d'espace il y en aura, va y avoir beaucoup de contres à jouer, ça va être un match où il y aura peut-être des espaces. J'espère vraiment pas que ça va être quelque chose comme Nice par contre, où les deux équipes limite se regardaient et en fait qui joue le premier et qui fait la passe. Mais c'est pour ça qu'avec la qualité qu'on a devant et même le dynamisme, on aura le ballon au maximum. Et après, ce sera à nous d'être efficaces avec le ballon sur tout ça, je pense.
Messieurs, on va parler compo probable. J'ai pas eu d'infos là-dessus. Est-ce que quelqu'un a des infos sur Gonçalo Ramos? Est-ce qu'il sera encore absent ce week-end? J'ai vu passer dans les commentaires que peut-être que Colomani est en soin pour une entorse à la cheville.
Colomani, les documents sont pas finalisés, donc il peut pas jouer demain.
Moi, de ce que j'ai lu dans l'équipe du jour, Ramos est apte, mais ça partirait a priori selon l'équipe, en tout cas sur la même compo conclure, donc avec Asensio qui débuterait fondu.
Ouais, j'ai vu ça aussi.
Ok, donc est-ce que vous pensez que ça aura le même succès que face à une équipe joueuse comme Lens, d'avoir Asensio en faux neuf, ou est-ce que dans cette équipe on aurait plus besoin de notre neuf du coup qui est pas apte, mais on sait pas vraiment pourquoi. J'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il a au Gonçalo Ramos. À la base, c'était un petit truc, et là, ça va faire deux semaines.
Oh, je pense qu'il revient de blessure. Il sera dans le groupe, mais il a peut-être pas eu des séances d'entraînement, trop de séances d'entraînement, et puis il se base sur le match contre Lens dans la continuité avant la trêve internationale. Je pense que c'est juste ça.
Et puis c'est tellement naïf Lyon derrière que d'une certaine manière, peu importe, à partir du moment où tu es capable de les aspirer un minimum et que tu es capable de te projeter, presque peu importe qui tu auras en neuf, si tu as un neuf ou si tu as un faux neuf, ça ne change pas forcément l'équation.
aussi ce fait de Lyon qui n'avance pas du tout sur le porteur de balle et qui est en recul fracassant. Donc avec Asensio qui a une frappe de loin intéressante, s'il n'est pas pris par des porteurs, il va pouvoir frapper de 25 mètres comme il l'a fait contre Lens.
Après, si ça peut être le Asensio de la deuxième mi-temps contre Lens, qui est aussi un peu plus mobile entre les lignes, qui vient récupérer les ballons, qui arrive à aussi l'amener vers l'avant, ce serait un peu mieux aussi. C'est ce qui serait mieux.
Alors, je voulais juste réagir au message de Lucas. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, Lyon, c'est pas, ils savent pas jouer bloc bas. C'est-à-dire qu'ils vont chercher quand même à avoir un minimum de possession au milieu. Tu l'as vu notamment avec Cacré sur les quelques matchs. T'avais cette tentative-là de poser le pied sur le ballon. Et après, c'est juste que c'était trop faible devant, etc. Ce que disait Lolo, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que ça s'attendait. Mais t'avais quand même une tentative de possession. Et une chose est sûre, c'est qu'ils vont pas rester tous derrière comme ce que Lorient a pu proposer lors du premier match. C'est vraiment pas, c'est presque antinomique. Donc ils vont essayer d'attendre pour contrer, mais contrer avec qui? Quel joueur de vraie vitesse ils ont? Moi, je suis encore en train de les chercher. Lacazette, c'est même pas tout à fait son profil. Tu pourrais l'envisager avec Lacazette, même si c'est pas complètement son profil. Mais même s'ils attendent, ils vont attendre en bloc médian et tu peux tout à fait essayer de les aspirer justement en essayant d'aspirer leur milieu. Et là, t'as des espaces qui s'ouvrent parce que la charnière est extrêmement naïve et extrêmement faible.
Est-ce que, question aussi, parce que je regardais un petit peu, mais est-ce que ce serait pas aussi casse-gueule pour Laurent Blanc de mettre les deux recrues de chez eux directement dans le bain? Parce que mettre Nouama, ouais, peut-être. Est-ce qu'il continuerait pas? Barcola, ils l'ont plus. Et est-ce que tu mettrais pas plus un Jeffinho qui a un peu plus l'habitude de jouer avec l'équipe pour même apporter aussi de la vitesse? Parce que là, tu mets deux mecs sur le front de l'attaque et qui découvrent à peine l'effectif. J'ai peur que ça soit tout ou rien, en fait.
Mais en même temps, Blanc, c'est tout ou rien en ce moment. Donc, ouais. Quand tu n'as pas de certitude. Faut te remettre une recrue ou un Jeffinho qui a été titulaire 4 fois en 6 mois et qui puisse une recrue de Textor, c'est encore cette recrue, c'est extraordinaire. Quoi. Textor l'achète à un club filial brésilien de Lyon, 3 millions pour le revendre 15 millions à Lyon plus tard de Botafogo. Enfin, on n'y comprend rien, Textor c'est magouille. Normalement, quand tu fais des transferts comme ça, c'est pour baisser le prix des transferts ou gonfler tes trucs. Lui, c'est l'effet inverse, il fait payer plus cher Lyon.
Et je voulais juste réagir à ce que disait Oz là justement. A priori, non, justement. Il y a eu discussion avec Textor et ça s'est un petit peu apaisé. Et c'est clair que de toute façon, s'il y a une défaite, il ne serait pas dans une situation top. Mais Lyon est dans une telle situation au niveau financier, contrôlé par la DNCG, etc., 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 que Lyon est peut-être un peu moins en danger maintenant que ce qu'il était la semaine dernière. C'est les derniers échos qui étaient dans l'équipe de ce matin.
Kevzor, est-ce que tu penses que les cicatrices du passé sont parties? Et on sait que le Paris Saint-Germain, souvent, quand il est ultra favori, des fois, il relance des adversaires malades. Est-ce que tu penses que ces cicatrices sont définitivement fermées avec le chapitre Luis Enrique et que demain, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter? Ça va être une longue balade tranquille.
Longue balade tranquille, non. Chaque match n'est pas une longue balade tranquille. Mais concrètement, je pense qu'en termes de professionnalisme et de préparation de match, Luis Enrique est vachement vigilant avec ses joueurs. Je pense qu'il veut absolument gagner tous les matchs. Il veut faire en sorte que la préparation des matchs soit la plus intéressante possible. Et concrètement, je suis quand même assez confiant. On a eu nos deux premiers matchs, Lorient-Toulouse, qui sont des matchs qui étaient quand même largement abordables sur le papier. Là, on est sur des matchs, même si Lyon fait un très mauvais début de saison, ça reste une top équipe de Ligue 1 de base. Et on est sur des matchs beaucoup plus couperés et beaucoup plus test pour notre championnat. Donc, on a réussi à passer le test lensois avec brio. Et je pense que pour la confiance et pour le travail à fournir du groupe, des joueurs et du staff, il est important qu'on continue à enchaîner les bonnes performances. Et pour moi, ça passe par une confirmation du très très bon match que l'on a fourni à Lens. Donc moi, honnêtement, je suis confiant. Le match contre Lens m'a fait kiffer, franchement. Et je pense sincèrement que on va détruire Lyon. Franchement, je suis confiant.
Lolo, je te pose la même question et il y a en même temps Sax qui nous demande. Non, c'est pas Sax, c'est tout qui nous demande. Est-ce que vous, à quelle place vous voyez Lyon cette saison? Donc ça rentre un peu dans la question que je t'ai posée.
Je prends un copier-coller de Kev et je le mets sur la table. J'y crois totalement. On va les foudroyer si jamais je dois être hyper optimiste. Non, mais en vrai, moi je vois une victoire large. Je pense que ça va bien se passer. Mbappé aura faim. Tu risques d'avoir des mecs qui vont bien tourner. Asensio aussi. Il commence à encore un peu prendre plus ses marques, c'est bien. Ça peut donner de la continuité dans l'équipe et dans l'effectif. Pareil au milieu de terrain, avec un Vitinha qui peut-être à la composition, voilà, il va prendre ses aises et va avoir un peu plus de personnalité. Donc, confiant, oui. Je ne pense pas qu'on va les relancer. Ce n'est pas forcément le moment. Même si Lyon, on sait très bien que le dimanche à 21h et que dès qu'ils entendent Amazon Prime ou Canal+, ils se mettent en mode prime time. Et après, où va terminer Lyon ? En vrai, je ne vais pas te mentir que ce n'est pas forcément mon souci, mais je ne vois pas forcément dans le top 5. Vu comment il est un petit peu plus dense cette année, en tout cas, le championnat devient un peu plus dense, je ne les, vois pas dans le top 5 cette année. Je ne les, vois pas dedans.
Andreas ?
Pour le match en lui-même, c'est pas encore acquis. Hein. Le match contre Lens était provoqué énormément d'enthousiasme, mais ça doit être confirmé. Mais il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Surtout si on a la reconduite du même 11, ça a été nommé par Lolo, on a un Kylian Mbappé qui va avoir très très faim, qui a mis ses deux buts, mais on sait que Kylian Mbappé ne se satisfait pas d'avoir mis deux buts, hein, il va chercher à en mettre tout le temps. On peut même espérer un Dembélé qui va un petit peu plus trouver ses marques parce qu'il avait été très intéressant dans le jeu mais avait perdu pas mal de duels. Il y a franchement beaucoup de raisons d'être optimiste sur ce match. Et pour Lyon, c'est complètement illisible leur situation. Ça peut être cataclysmique. Hein. Ils peuvent finir deuxième partie du tableau. C'est possible. Il y a tellement de conflits dans tous les sens. Le titre de l'équipe hier, c'était règlement de compte à Hockey Corral avec Textor et Laurent Blanc en mode western et western, deux shérifs dans un western qui s'affrontent. Ça a l'air d'être vraiment une situation complexe pour ce club, avec Aulas qui fait un procès à l'heure actuelle. Enfin, impossible de savoir où terminera ce club, mais ça peut être la saison catastrophe.
Et dimanche matin, n'oubliez pas, il y a une interview qui sort des vérités de Jean-Michel Aulas sur la situation du club. Donc en avant-match, ce ne sera pas forcément la bonne ambiance. Donc je pense que
il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas honnêtement.
Ouais.
Swapper, j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas si vous avez entendu que Daz ne va récupérer tous les droits de la Ligue 1. Je sais pas.
Il y a de plus en plus de pubs là, en ce moment. Là.
Ouais, un mois offert, Ligue 1, Canal+.
Mais ils ont toutes les affiches de Canal, mais c'est surtout qu'ils sont annoncés. Il y a les droits qui sont rediscutés en octobre et ils sont annoncés comme le diffuseur qui va mettre le gros des moyens et récupérer un maximum de lots, en sachant qu'en plus, cette année, ils ont l'intention de faire moins de lots pour qu'il y ait moins d'abonnements pour les consommateurs à récupérer. Et donc, ils sont annoncés comme le gros cador. À l'heure actuelle, c'est juste qu'ils ont récupéré tous les matchs. Ils sont en co-diffusion avec Canal+, des matchs qui sont diffusés sur Canal.
Ok, j'espère que ça va rester chez Canal, parce que si c'est encore pour prendre un abonnement chez Canal et un abonnement chez DAZN, avec Canal, ils récupèrent tout le foot, c'est plus simple.
Ils veulent pas mettre l'oseille.
Donner mes thunes à Bolloré, mais ça, c'est un autre débat.
vous avez d'autres questions sur l'avant-match ou on passe au dossier suivant? Est-ce qu'il y a des problématiques et des thèmes que vous voulez aborder?
Il y a F qui demande Mukiele, ça donne quoi? Mukiele a repris l'entraînement collectif, il a fait toute la séance hier. A priori, il revient dans le groupe après la trêve internationale.
On pourrait dire la même chose de Kimpembe, mais j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va pouvoir trouver sa place cette saison avec ce qu'on a sur et dans l'équipe et sur le banc maintenant.
Et Nuno? Nuno reprend quand?
semaine prochaine normalement.
Il y a de la philo et des poèmes si tu veux.
Donc Nuno, semaine prochaine.
Jouer demain conclut Jazen puisqu'il se remet d'une entorse.
Donc ça veut dire que potentiellement retour de la trêve internationale, on a tout le monde.
C'est Sanguin, ça Nuno, Mukiele, non Kimpembe non.
Oh, Kimpembe non.
Sur Kimpembe.
Mais Kimpembe, je pense qu'il est pas. Il n'est pas très très loin d'un retour.
Oui, anticipé.
Parce que j'ai l'impression qu'il a quand même vachement bien bossé sur sa récupération. Et des échos que j'avais eu un petit peu, c'est qu'il est en avance sur tout ce qu'il avait préparé. Parce qu'il a. On peut aimer ou pas Kimpembe, mais c'est quand même un gros bosseur. Mmh. Et il a vraiment beaucoup travaillé au niveau de. Avec les médecins, les kinés. Les ostéos, etc., pour pouvoir se remettre le plus vite possible de sa blessure. Donc, on n'est pas à l'abri d'un retour, parce qu'on nous parlait mi-novembre, je crois, au départ, et plutôt, minimum, mais plutôt courant octobre, début octobre, a priori, peut-être pour un retour collectif.
C'est bien, ça. Quid de ce que tu fais défensivement? Aïe, aïe, aïe.
Ah. Aïe, aïe, aïe. Après, tu vois, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Tu vois, si, je ne le souhaite pas, bien sûr, hein, mais une éventuelle grosse blessure d'un Ugarte, par exemple, pourrait permettre de faire monter un Marquinhos d'un cran et rabattre les cartes un petit peu, parce que vu qu'on n'a pas un pléthore de milieu de terrain, à part Fabian Ruiz et Carlos Soler sur le banc, et Cher Endur, mais bon, ils sont bien sympathiques. C'est pas... C'est...
Bon, Ruiz dans la rotation ou Cher Endur, je prends. Hein.
Une charnière Kimpembe Skriniar, pour moi, Kimpembe, si tu veux le faire jouer, c'est en remplacement de Skriniar, et pas forcément une association avec Skriniar. Kimpembe, Lucas, t'as du mal. Enfin, pour moi, en fait, si tu veux, c'est Kimpembe Marquinhos ou pas grand-chose si tu mets Kim sur le terrain. Et j'ai du mal à voir une autre association en charnière que ces deux-là.
C'est pas pareil si tu joues dans une défense à trois, en fait. Quand t'as,
c'est
quand...
vrai.
C'est en fait, tu vois, la malléabilité de cette compo te permet de voir des choses différentes, je pense. Moi, je trouve que
c'est sur un truc hybride.
T'as ouais, bien sûr, c'est malléable.
T'as quand même une idée d'un duo. Et à ce moment-là, le seul duo avec lequel je vois Kim, parce que Lucas Hernandez, ils ont le même pied préférentiel. Avec Skriniar, tu te retrouves avec deux stoppers. Et il y a un petit souci parce que tu as vraiment deux fois le même profil. Et du coup, pour moi, il reste qu'avec Marquis.
Stopper à la bonne relance quand même. Hein. Ouais, Kimpembe bien pour sûr, casser des passes en première relance, c'est très très.
Tu peux dire la même chose de Skriniar. Tu peux dire la même chose.
Skriniar, il fait plus en couverture quand Kimpembe fait des montées balles au pied. C'est pas tout à fait le même.
Oui.
Ouais, mais est-ce que tu auras envie de les voir l'un à côté de l'autre?
Pourquoi pas.
Bon, ok.
Moi, je pense pas que ce soit incompatible, mais je pense pas en fait que ce soit la compatibilité maximum en fait.
Ah c'est... Non, c'est pas la DC préférentielle, ça c'est sûr.
Oui, non, voilà. mais après, faut pas oublier qu'avant sa blessure, pour moi et depuis un an et demi, c'était notre meilleur défenseur central qui est en train de monter en puissance, qui était devenu capitaine, même s'il y avait absence en équipe de France, en Ligue des Nations, quand on faisait des résultats catastrophiques. Donc voilà. Moi, je trouve que malheureusement, ça l'a freiné, mais. Mais il était quand même en très, très... il était en nette progression. Et franchement, moi j'adore Kimpembe. Hein. C'est un joueur qui aime le PSG en plus. Hein.
Moi, je l'adorais. Mais justement, dans cette période-là, la période que tu nommes, c'était presque dommageable qu'il soit le meilleur central. Ça racontait plus que ce que ça racontait le niveau de Kimpembe, ça racontait le niveau des autres. Et Kimpembe, c'est un joueur dans lequel j'ai énormément cru. Tout le monde se souvient de son entrée contre le Barça quand il était en train d'éteindre Lionel Messi et ça a marqué tout le monde. Et c'est un truc qui reste collé à la rétine. Mais c'est un joueur qui s'est jamais vraiment départi de ses soucis de manque de concentration avec des sautes dans les matchs. Et ce qu'on attribuait, on a attribué ça pendant longtemps à des défauts de jeunesse jusqu'au moment où un jour tu te réveilles, tu te rends compte que le jeune il a 27 ans et que c'est toujours pas réglé. Et même dans sa période où il était fort, il y avait toujours ces petits trucs-là qui... Pour moi, cette période, c'est vrai, Kimpembe était le meilleur central, mais tu avais un Marquinhos qui était complètement aux pâquerettes, qui faisait n'importe quoi. Tous les autres centraux ressemblaient à rien. Et c'était un peu... Il était bon en mode le borgnier roi dans le monde des aveugles, ou je ne sais plus c'est quoi l'expression.
Ok, les gars. Bah, écoutez, si vous n'avez plus rien à dire sur le match de demain... on va continuer le podcast avec Basto qui avait une, je sais même pas comment on appelle ça, une diatribe peut-être.
Une tribune.
L'édito de Basto.
L'édito de Basto qui, je vais dire en préambule, je ne suis pas du tout d'accord, mais Paris Central,
c'est la démocratie. 90% des gens ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave.
C'est la démocratie, tout le monde donne son avis, il n'y a pas de souci, on respecte les avis des autres. Donc Basto, vas-y. Affronte le peuple et donne ton avis. C'est ton temps, c'est ta tribune. Vas-y.
Alors, tu parlais de Kolo Muani et identité parisienne. Donc, je ne vais pas parler de Kolo Muani de par son niveau de jeu ou des débats tactiques qu'on pourra avoir au fur et à mesure de la saison et des podcasts. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le niveau de jeu de Kolo Muani. Mais je parle donc de Kolo Muani en tant que syndrome systématique des erreurs continuelles parisiennes, celles qui sont liées aux troubles d'identité, un club qui se cherche, une identité depuis le début de son histoire et qui est perdu un peu entre deux eaux. Donc tout a commencé il y a un long temps, évidemment, avec la création du PSG, l'appel de Philippe Bouvard à la radio, le gang des chemises roses, Borelli, Echter, un couturier, Enrico Macias, un chanteur, et Belmondo, un acteur qui crée le club, donc c'est le Paris Paillettes, etc., etc. Quelques années plus tard, en face de la tribune Boulogne, on rajoute une tribune plus populaire pour contrecarrer, qui est la tribune Auteuil. C'est très bien, c'est une très bonne idée, mais à partir de là, on se perd Donc, qu'est-ce que le PSG ? On a deux clans depuis des années, je schématise, hein, je grossis un peu les traits, qui s'affrontent. Le clan du beau, Paris, les strass, les paillettes, et le clan un peu de c'est la guerre, c'est le combat, les valeurs de la banlieue, la sueur, ce que j'appelle boue sans sueur, moi. Donc voilà, ce qui serait un peu le club, le PSG serait un étendard identitaire parisien. Et donc, ça amène à des dérives d'un camp comme de l'autre. La secte du chemin de roi, que je ne présenterai pas. Ce n'est pas le sujet, c'est pas le sujet de cet édito. Et de l'autre, une autre secte, hein, celle de la boue sans sueur. Et donc, on rentre dans une lutte qui est d'influence plus sociale que sportive, mais avec des dérives qui ont un impact bien plus important sur le sportif que l'on peut croire. Donc moi, j'avais l'impression, sur ce mercato, qu'on prenait un nouveau virage, qu'on sortait cette dualité un peu et qu'on construisait un ensemble cohérent qui mélangeait courage et spectacle. Voilà, les Dembélé, les Hernandez, les Ugarte, tout ça, c'était parfait, tout le monde était content, il n'y avait pas vraiment de clichés symptomatiques. Colomouani, pour moi, c'est la pièce qui vient un peu tout dérégler. La pression populaire est déjà en place et j'ai l'impression de pouvoir l'arrêter, que ce soit chez les supporters. Alors là, Colomouani est intouchable. Hein. Ouh là là. Ah, déjà, depuis ce qu'on a vu hier, les équipes types, personne ne met Ramos chez les supporters. Et ça prend aussi chez les médias. La une du jour de l'équipe, notamment Mbappé, Dembélé, Colomouani, vont former un trio 100% français au sein de l'attaque. Et on va un peu plus loin dans l'équipe. Pour eux, Ramos, pas un mot, Colomouani est déjà titulaire indiscutable. La concurrence n'existe pas, donc chez les supporters et chez les médias, c'est déjà le cas. Bon courage à Ramos, parce que j'ai l'impression qu'au moindre premier match, moindre mauvais premier match, il se fera critiquer, alors que Colomouani part avec une immunité qu'avait à l'époque un Matuidi, par exemple. J'ai l'impression qu'il peut faire 10 mauvais matchs de suite, ce n'était pas forcément le cas de Matuidi, mais qu'il sera forcément excusé. Donc voilà, ça me fait un peu peur, cette concurrence qui pourrait déjà être biaisée. Et ensuite, cette influence des supporters chez les médias influence aussi, on sait, les décisions de Nasser, qui est un peu sensible à ça. On voit bien que Nasser a repris cette idée de Paris-Île-de-France demandée par le CUP il y a quelques mois. On découle les départs de Neymar et Verratti, et tant mieux pour le coup. Et ensuite, ça a une influence sur le vestiaire et donc sur les choix sportifs. Donc, on sortait enfin de cette ère sud-américaine et du chemin du roi. Et maintenant, on arrive dans un clan qui sera plutôt français dans le vestiaire, notamment Dembélé, Lucas, Mbappé et Colomouani. Et l'ère du combat, de « il faut aller à la guerre ». De facto, certains seront boycottés. Ramos, j'en ai parlé. De facto, les choix seront biaisés. Et de facto, j'ai peur que le coach soit obligé de se prostituer devant ses faits incomplis. Je ne peux pas en vouloir aux gens. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est toujours la même cause, la même source de problème. C'est le trouble identitaire qui est lié à l'absence d'alternative en région parisienne. On est la seule capitale qui n'a qu'un club en division 1. Enfin, en Allemagne, ils ont eu quelques temps en division 2, mais on n'a qu'un club référencé comme club important. S'il y avait le Red Star en Ligue 1, ce serait peut-être différemment, puisque le Red Star prône ses valeurs populaires et de banlieue. J'adore aller au Stade Bauer, d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet, c'est un autre club, ce sont d'autres valeurs. Et donc, j'espérais vraiment rentrer dans cette nouvelle ère, celle d'une équipe sans clan, sans opposition, sans guerre d'idéologie. On y était presque. Trois petits points, Colomouani. Fin.
Bon, tout de suite, on va commencer l'opposition. Après, Drea, je vais te laisser parce que tu vas aller dans la continuité un petit peu, même si tu vas avoir ton avis personnel. On va apporter un peu de contradiction là-dedans. Le Paris Saint-Germain, à part peut-être dans les années 90, dans les gros, gros matchs d'Europe.
Je sors mon bloc-notes. Hein.
N'a jamais eu ce supplément d'âme qui est nécessaire pour gagner notamment la C1. Ce dont tu parles, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire au Paris Saint-Germain. On a essayé les mercenaires pendant des années. Le Paris Saint-Germain a tellement de choses contre lui pour arriver au bout que c'est absolument nécessaire d'aller dans cette direction. Parce que déjà, on a vu encore les tirages au sort. Bah, bravo, j'ai jamais vu des tirages au sort comme ça. Je crois que c'est le pire groupe que j'ai vu de l'histoire. Et en fait, quand tu vois une équipe comme...
Attends, l'Avar est obligé d'intervenir en direct.
quel groupe ?
Le Liverpool-Napoli et Maccabi, c'était une poule plus costaud, je trouve, honnêtement. Hein.
Avec Maccabi ?
Belgrade,
mais il y avait une équipe faible de fou dedans. Tu vas pas comparer Dortmund et Belgrade.
Ouais,
quand
mais le Liverpool et Napoli, c'était bien au-dessus des trois.
Ah oui, oui, mais là, je parle d'une poule où les trois adversaires, ils sont forts. Là encore, on avait 6 points.
Oui, mais
c'est pas pareil. Écrit.
Non, parce que Belgrade, rappelle-toi, il y a Liverpool et le Napoli se cassent la gueule là-bas. Hein. C'est très, très difficile d'aller jouer à Belgrade, en sachant que le Liverpool et le Napoli de l'époque étaient bien supérieurs au Milan, à Dortmund et à Newcastle d'aujourd'hui. Hein.
Oui. Bah, la VAR est intervenue. Il a raison. On va continuer sur ce que je disais.
Quand excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, tranquille. Quand tu prends le Real Madrid, par exemple, qui a gagné 14 Ligue des Champions, il y a un truc clé. Et on l'a vu encore, même quand le Real il est nul, il y a quelque chose qui se passe sur le terrain. Les mecs qui sont sur le terrain rêvent de jouer au Real Madrid depuis longtemps. Genre, c'est le club de leur vie. C'est le club que, en fait, ils feraient tout et n'importe quoi, même quand ils sont fatigués. Quand tu vois Modric, 37 ans, qui dépasse des joueurs qui ont deux fois moins de son âge, là, c'est le maillot qui part. Quand tu mènes contre le Real et que tu mènes 3-0 et que en 10 minutes, le Real, il te retourne, quand il retourne Manchester City, là, c'est pas le niveau qui parle parce que City, encore une fois, était au-dessus du Real. Il y a quelque chose qui se passe et le Paris Saint-Germain n'arrive pas à avoir ce truc parce que tous les joueurs qu'on a ramenés, c'est des joueurs qui viennent pour, entre guillemets, pour l'argent. Je suis désolé, les gars. Peut-être qu'ils aiment bien le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas le club de leur cœur. C'est, entre guillemets, c'est mon taf. Je vais venir, je vais bien le faire. Et c'est honorable hein, parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent et qui font mal leur taf. Mais quand ça va devenir ultra compliqué, il ne va pas y avoir ce supplément d'âme qui va faire que ça va basculer. Et ça, le Paris Saint-Germain n'est pas assez, en assez grand club pour avoir ça sans passer par des joueurs français. Les seuls joueurs qui regardaient le Paris Saint-Germain, entre guillemets, avec des yeux, des gros cœurs et tout ça, bah, ça va être des Parisiens. Ça va être... On a peut-être Nuno Mendes qui l'est aussi, parce qu'il a un peu... Je crois qu'il a une histoire avec Paris aussi. Mais pour avoir des joueurs qui vont se défoncer en plus de l'argent sur le terrain pour quelque chose d'émotionnel, parce que le foot, c'est émotionnel, les gars. Faut pas occulter ce fait. Comme j'ai dit encore une fois, les équipes qui se foirent émotionnellement et les équipes qui gagnent émotionnellement des matchs, on l'a vu encore avec le Real l'année dernière, c'est quelque chose d'important. Et pour avoir ça, tu me parles d'identité, mais tu es obligé d'avoir des joueurs parisiens parce que c'est les seuls qui vont s'arracher au-dessus du fait que ça soit leur taf de jouer au football. C'est eux qui vont tout donner sur le terrain. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire une équipe 11 mecs Île-de-France, nanana, c'est ridicule. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours y en avoir 3, voire 4 dans l'équipe qui vont encadrer des mecs. Comme, je ne sais pas c'est qui, c'est Thierry Henry qui disait quand il était au Barça, il se foutait de la gueule du Barça. Et parce que genre c'est pas son club et tout, et je crois que c'est Xavi ou Iniesta qui arrivait direct et tu as dit hey, mec, t'as jamais rien gagné ici, respecte le Barça, etc. Et là il y a personne au Paris Saint-Germain pour faire ça, je suis désolé. Là il y a des mecs, quand ça va être en PSG-OM, là quand tu vas voir la tête de Dembélé, de Colomboigny et de Mbappé, quand ça va être le Classico, ils vont tous être obligés de se mettre à ce niveau-là parce que ils savent pas, ils peuvent pas savoir, ils connaissent pas le Paris Saint-Germain. Quand ces mecs-là ils étaient petits, nous on était en train de jouer je sais pas quoi, des coupes qui n'existent même plus, frère. Hein. À l'époque c'était les grands clubs, c'était le Real, c'était le Barça, nanana. Et quand t'es petit, forcément tu le vois maintenant, tu supportes les grands clubs. Mais le Paris Saint-Germain n'était pas un gros club à cette époque. Donc peut-être que dans 10 ans, on pourra se permettre de prendre des Sud-Américains, des Portugais qui rêvaient de jouer au PSG, parce que quand ils avaient 10 ans, c'était Neymar, Mbappé, Messi. Ben là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc là, pour l'instant, tu es obligé de prendre des Français qui respectent le Paris Saint-Germain et qui l'aiment du fond de leur cœur. Parce que c'est ça qui va faire la différence en plus du niveau. Vas-y, Dreyas.
Alors, déjà, je vais commencer par un petit truc qui est un peu hors propos. Il y a eu un commentaire sous la précédente vidéo, je vais juste pas le nommer, juste rappeler un truc, c'est moi mon joueur préféré au Paris Saint-Germain, c'est Nuno Mendes, et jusqu'à nouvel ordre, preuve du contraire, c'est pas un Mbappé. Et sinon non, je juge jamais à la gueule du client, c'est pas le propos. En fait, tu poses un débat qui est très intéressant, Nyx. En fait, c'est juste que Basto nous parle de clan, toi tu nous parles d'identité. Et en fait, c'est où tu vas situer la frontière entre les deux. Et comment est-ce que tu vas pas tomber dans le piège de l'identité, c'est une très bonne chose. Et là-dessus, tu marques des points. C'est vrai, tu marques des points. Mais à quel moment tu ne vas pas tomber dans le clan? Surtout qu'il y a un élément à prendre en compte qui est super important, c'est que l'air de rien, tu es en train de reconstituer l'attaque de l'équipe de France. Et donc, les pressions qui vont venir par rapport à ça, elles vont venir de Deschamps, elles vont venir de la presse, elles vont venir de l'entourage par rapport aux joueurs, etc.
C'est le transfert de
au-delà,
Nasser.
Au-delà, justement, c'est vraiment l'attaque de l'équipe de France. Et le truc, c'est cette problématique clanique au Paris Saint-Germain. Enfin, toi, tu faisais référence à Emery, qui était l'époque où tu aimais le club. En deuxième partie de saison, à la deuxième saison, mais qu'est-ce qu'on a payé cher avec le clan brésilien, etc., les Bel Silva et consorts et tout, et tout, et tout. Et c'est un truc qu'il faut absolument éviter. Et donc, si tu veux, tu as une lecture qui est optimiste, et en vrai, tu peux avoir raison. personne ne peut te dire que tu auras tort, personne ne peut dire à l'heure actuelle, on en est au début de la saison, et peut-être qu'en fait ça va super bien se passer, peut-être qu'il y aura juste la dimension identitaire. Mais le risque de la dimension clanique, il existe, on peut pas juste le virer d'un claquement de doigts, il existe et il faut le prendre en compte.
Qui veut enchaîner? Ben vas-y, il y a quelques ans.
Alors, en fait, moi, je suis quand même relativement d'accord avec ce que tu as dit, Nyx. Moi, je ne suis pas du tout partisan du projet Île-de-France, du projet Équipe de France, etc., etc. Parce que moi, à partir du moment où, peu importe la nationalité, la couleur de peau, qu'il soit un Marocain, Américain, Norvégien, Chinois, Japonais...
La couleur de peau, en fait, il y a un mec qui a ça, mais voilà, faut même pas qu'on en parle.
Non, mais je fais cette parenthèse, excuse-moi, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à faire
des raccourcis.
Des raccourcis très rapides, bêtement. Donc voilà, moi en fait, je veux des mecs qui mouillent le maillot, qui soient investis dans ce projet, qui soient performants. Parce qu'après, on peut mettre n'importe quel joueur qui mouille le maillot. S'il n'est pas bon, malheureusement, il ne conviendra pas à ce qu'on demande. Mais par contre, je pense que comme a dit Nyx, avoir 4-5 joueurs, pas forcément que des titulaires indiscutables, mais des mecs qui t'amènent ce supplément d'âme, qui te montre que Paris, c'est pas facile, parce que Paris, c'est vraiment très, très difficile. Beaucoup de joueurs se sont cassés la gueule au PSG et qui pourtant ont réussi dans d'autres clubs. La ville de Paris est une ville aussi extrêmement, extrêmement dure. Quand on a de l'argent, Paris, ça peut t'aspirer très vite et t'amener dans des conditions très, très difficiles. Donc, il faut quand même qu'on ait cette base de joueurs qui soient franciliens avec 4-5 cadres de cet effectif et qui les amène en fait à se dire, voilà. Moi, je me rappelle d'un classico où à un moment donné, il y a une embrouille comme tout le temps quand il y avait Paredes sur le terrain ou Neymar, et le seul qui vraiment sur l'embrouille mais pète un câble en étant vraiment parisien, c'est Kimpembe. Je sais pas si vous vous rappelez quand il l'attrape par le col
Campos.
Ouais, à Ocampos, exactement. Mais ça me gênait un petit peu, parce que même si certains joueurs, que ce soit sud-américains, européens ou quoi que ce soit, étaient dans les embrouilles, là on avait vraiment des mecs qui mouillaient le maillot. Enfin, un autre exemple type, à un moment donné, Kimpembe en Ligue des Champions avait pété un câble sur un match, prend carton rouge là sur un gros tacle, et tu sentais en fait que le mec, c'était de la frustration, parce que le gars, il aime le maillot. Donc il faut qu'on ait vraiment ces 4-5 joueurs qui apportent ce supplément d'âme, qui t'apportent ce... C'était peut-être pas en Ligue des Champions, c'était ça
en
que je voulais dire.
En Ligue 1.
Ouais, c'était en Ligue 1. Et donc moi je trouve que c'est important, tout en sachant que quelque chose que je ne veux pas, et ça c'est clair, net et précis pour ma part, je ne veux pas ce clan de joueurs franciliens qui font que le clan sud-américain qu'on avait au préalable tire les ficelles, font la loi dans le vestiaire, etc. Moi je veux que ces 4-5 gars, ils apportent, et j'insiste sur ce mot, ce supplément d'âme et cet amour du maillot, qu'ils l'inculquent aux autres joueurs, et qui derrière tout le monde soit intégré dans un même mood, dans un même moule, et travaille pour cet effectif de manière collective.
Ouais, juste à l'époque, toi, mec qui mettait beaucoup de taquets et tout, qui se battait et tout, il y en avait un, hein, il s'appelait Thiago Motta. Ça même pour moi a été un des symboles de ça. Et ce que je veux dire par là, c'est ce que disait Basto, en fait, c'est le sens de son poste. Est-ce que tu peux réduire Paris à la banlieue, ou est-ce que Paris, c'est une ville cosmopolite? Ou est-ce que Paris, justement, c'est pas les deux? Et c'est peut-être un équilibre entre les deux. Ou à la fois, tu sais, on avait ce débat avec Basto pendant très longtemps, et on essayait un peu de situer où est-ce qu'elle était d'une certaine manière. Tu pourrais presque dire que le foot est né là, dans la rivalité River-Boca. Et quel club, dans quel pays se situer par rapport à River Boca? Et clairement, quand tu regardes en France, River c'est Paris et Boca c'est Marseille, au niveau de quelque chose. Et il y a ce truc du beau à Paris, tu peux pas faire abstraction. Et là où on avait quelque chose, ou en tout cas on a cru voir naître quelque chose à Lens, et c'est ce que nommait Basto, c'est que tout à coup tu avais un équilibre, tu n'avais pas de gagnant entre les partisans du beau et les partisans de la sueur. Et que peut-être, et c'est ce que dit Basto, et moi je pense comme lui, mais encore une fois, on peut tous les deux avoir tort, hein. La saison, pour l'instant, on en est au stade des suppositions, mais peut-être que l'arrivée de Colomb, justement, déséquilibre ça, va redonner un peu plus d'allant au monde de la sueur, et que c'est ça que ça va devenir la réalité. Et c'est ça la crainte exprimée. Après, tu l'as dit très bien, hein, c'est l'identité, oui, mais le clan, non. Si on remplace le clan des Brésiliens par le clan des Français, et en vrai, le fait d'avoir l'attaque titulaire d'EDF constitue un risque par rapport à ça, par la pression. On va mettre la presse, ça, il ne faut pas être naïf. Elle sera là, la pression de la presse, pour avoir les trois titulaires. Et ben, à ce moment-là, il y a un risque de clanique. Et si c'est pour repasser du clan des Brésiliens au clan des Français, ça, ça fait vraiment chier. Mais
juste, je te laisse continuer, juste répondre à Vincent. Avec les Sud-Américains, on a été invaincus durant 10 ans contre Marseille. J'ai juste quelque chose à te dire. Il y a un seul joueur qui n'a pas perdu contre Marseille, il s'appelle Kylian Mbappé. Voilà. Bon, vas-y, Basto.
Non, oui, juste par rapport, c'est pas antinomique avec ce que vous disiez, vous, Kevzer et Enix, hein, ce que j'ai dit, moi, ça me dérange pas d'avoir 4-5 Français, des joueurs en titre de France, Zaïre Emery en symbole, qui est la titulaire, etc. Mais j'ai peur de retomber dans ces débats, justement, sur les... vous vous souvenez du débat Pastore-Matuidi, ça a duré pendant des années, avec Matuidi qui avait le totem d'immunité pour certains, le retour dans l'ordre de blanc, la presse qui mettait Matuidi vraiment en avant, en intouchable, même s'il avait une petite période moins bonne, même si Pastore était bon, c'était toujours Matuidi. Par contre, Pastore ratait un match, il se faisait démonter. On a eu la même chose avec Aurier, sans l'affaire Periscope, je suis persuadé qu'Aurier sera encore titulaire arrière droit aujourd'hui au PSG pour ça, parce qu'il y avait la pression populaire derrière, parce que c'était Aurier, c'est un vrai Parisien, il aime le club, mais il n'était pas bon, il n'était pas forcément titulaire. Les gens râlaient en disant pourquoi c'est Meunier qui joue, pourquoi c'est Van der Aal, parce que Meunier n'est pas forcément bon, mais il était meilleur que toi. Et on tombait là-dedans, et c'était fatigant, c'était usant. Et les médias suivent. Aurier top 3 monde. Les médias suivaient la vie des supporters. Aurier est top 3 monde à son poste. Les gars. Et c'est ça qui me fait peur avec Colo. Effectivement, comme Dreyas a bien compris mes propos, c'est tomber là-dedans. Et on est déjà, je regarde les médias, on ne parle plus de Ramos. C'est Colo qui est titulaire indiscutable alors qu'il n'a pas encore joué un match et qu'il n'a pas montré au PSG ce qu'il allait faire. Et pour les supporters, c'est pareil. Donc c'est,
et attention,
c'est, en,
et
fait,
attention.
En fait, le sportif passe secondaire par rapport à une idéologie sociétale. Et c'est ça qui me gêne.
Si Asensio Ramos est titulaire demain et que celui qui est titulaire ne fait pas un grand match, première chose que tu liras dans l'équipe, première chose que tu liras dans le Parisien après-demain, c'est est-ce que s'il y a Colo, ça marchera mieux ensemble.
Je suis pas d'accord.
J'ai des contre-exemples, poser la question, les gars.
J'ai des contre-exemples, les gars. Kimpembe s'est fait fracasser par beaucoup de supporters parisiens, s'est fait fracasser par beaucoup de médias quand il a raté des matchs, etc. Et pourtant, il y a toujours... Moi, je suis un grand partisan. Je suis un grand défenseur de Kimpembe, vraiment. Hein. Sincèrement. Et pourtant, moi qui suis sur beaucoup de space Twitter ou qui suis vraiment dans beaucoup de débats sur Twitter, il y a une grande division au sein de la communauté parisienne sur un Kimpembe.
Et pourtant, il a fallu attendre 4-5 ans.
C'est différent.
Non.
Il a été très attendu.
Franchement, je vous garantis que non. Moi, je pense qu'en fait, il y a des exemples qui sont
Kimpembe,
concrets.
C'était Kimpembe. Et il était attendu. Enfin, il y a son intervention contre Messi. Et on lui passait tous. Au début, on était là. Il est trop fort. Alors, il a ses soucis de concentration. Et la problématique de Kimpembe, c'est qu'il est resté trop longtemps l'espoir. Et au bout d'un moment, à force de voir ce mec que tu as mis au nu, que Kimpembe, c'était... Il y avait Rabiot, mais Rabiot, c'était compliqué. Kimpembe, justement, c'était clair. Son amour, ses machins, ses trucs. Et l'identification, elle a été totale. Mais il a mis trop de temps pour s'imposer vraiment, pour devenir ce référentiel. Et du coup, il y a une partie, et je pense que c'est une partie de la déception. Tu dis que tu étais fan. Moi, j'étais fan de Kimpembe. Tu peux demander à Basso. J'étais heureux d'avoir un Titi qui portait haut de la ville de Paris. J'étais en train de vendre le fait qu'au match retour, il aurait dû être titulaire. Je ne vais pas parler de la confrontation, parce que rien que quand on le voit sur le banc, tu voyais qu'il était plus vénère que les mecs qui étaient titulaires sur le terrain. Et j'étais en train de défendre ça. J'étais content d'avoir un Titi qui voulait représenter Paris, qui était haut. Mais à l'arrivée, Il n'a jamais franchi ce pas. Et il est resté trop longtemps un espoir et ça génère de la frustration.
Je donne un autre exemple qui va tous nous mettre d'accord. Pourquoi une énorme majorité de supporters parisiens mettent dans leur compo type et dans leur recrute rêve au milieu un Khemfren Thuram?
Moi, je ne le mets pas.
Non, toi, je suis d'accord. Toi, tu trouves qu'il n'a pas les qualités. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi les gens le mettent? Ils ne l'ont pas vu jouer.
Là-dessus, je suis d'accord sur certaines... En fait, vos arguments, je les entends. Et je suis d'accord sur certaines choses où certains joueurs... et comme je l'ai dit encore hier en Space, ont un certain totem d'immunité parce qu'ils sont français et que s'ils étaient norvégiens ou peut-être sénégalais ou américains ou quoi que ce soit, on ne parlerait pas autant d'eux. Ça je le sais, j'en suis conscient, il n'y a aucun souci. Maintenant, en fait, il y a aussi une chose qui depuis 10 ans fait qu'on a quelques soucis, c'est que beaucoup de joueurs étrangers, pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais ont aussi sali notre maillot et ne nous ont pas respectés, nous supporters et personne. C'est, tu vois, en fait, et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans l'archétype, je ne veux que des joueurs franciliens ou que des joueurs français, mais je veux aussi en fait des joueurs qui apportent ce supplément d'âme et montrent l'exemple par rapport au maillot qu'ils portent. D'où le fait d'avoir une homogénéité dans cette équipe, pour permettre d'avoir et des joueurs étrangers qui veulent s'inscrire dans, dans ce projet sur du moyen à long terme et des joueurs français qui imposent entre guillemets le pourquoi du comment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un gars comme Nuno Mendes, il est portugais, c'est un Renois, et pourtant, il est adoré par les supporters.
Parce que c'est parisien, il est plus parisien que certains parisiens de naissance.
Parce que, ouais, voilà, c'est comme Pastore. Comment est-ce que tu justifies Pastore? Mais il y a un truc que je veux dire par rapport à plein de choses, que machin, oui, lui, il est gris, lui, machin, et truc. C'est, en vrai, là, on n'est que dans des suppositions et on exprime des croyances. Personne ici ne détient la vérité et personne ne sait comment ça va évoluer et on en reparlera
c'est un
après.
Débat, c'est
et
un certains débat, les gars.
Certains auront tort, certains auront raison et en fait, on s'en fout. L'intérêt, c'est juste d'en parler entre nous et d'ouvrir des débats et de s'ouvrir culturellement.
On
et
peut personne pas être tout le temps d'accord dire. De toute façon. Hein. Si personne on était tout le temps d'accord, ce serait pas intéressant.
Oui, mais les gars, voilà, là, je suis pas. Je suis
par rapport à certains commentaires qu'on peut voir et tout. Mais oui, par rapport. Va dans ce sens-là, Pastore. Et c'est là où on en revient sur ce truc River Boca. Et c'est là où on se revient sur ce truc où Paris, c'est à la fois la sueur. Clairement, elle existe. Le côté Mathieu Licharot, on est l'exemple presque parfait. Et c'est une composante parisienne. Ceux qui vont me dire c'est pas parisien, bah, c'est des dogmatiques. Mais c'est aussi un joueur comme Pastore qui a une côte d'amour. Tu le fais débarquer Pastore à l'heure actuelle. Tu as des mecs qui étaient trop jeunes pour le voir jouer au moment où il jouait, etc. Qui sont en train, qui sont complètement berserk dans le stade. Ouais, c'est Ravière. Comment est-ce que tu le justifies? Parce que à Paris, il y a la sueur, il y a le beau. Et c'est cet équilibre, cette alchimie à trouver. Voilà. Et c'est ça que les clans, c'est.
Il y a la magie aussi. Brias, il y a la magie.
Et en fait, et on voit que le club se perd dans ce trouble identitaire, c'est qu'on a eu le projet
de faire.
Ensuite, on passe à Ronaldinho. Ensuite, on passe là sous QSI, on passe à Messi, Neymar, Mbappé pour finalement repartir dans un projet plus Île-de-France. Donc même les dirigeants se perdent dans cette dualité. Les projets du PSG changent sans forcément trouver l'équilibre. Des fois, on fait de l'extrême avec le Paris banlieue de Perpère qui a été une catastrophe, le Messi, Neymar, Mbappé qui n'a pas marché parce que c'est un extrême.
Il n'y a jamais eu de Paris banlieue de Perpère, les gars, je vous l'ai déjà dit.
C'est Perpère qui l'a fait comme ça.
C'était le nom, voilà, dans les années 2000. C'était pas des mecs de France.
Elle était placée. C'était des mecs du Sud.
C'était Perpère qui le vendait comme ça.
Mais après, une chose très importante aussi à ne pas négliger, ça je le dis depuis 6 mois, c'est l'après-coupe du monde du Qatar. Aujourd'hui, Messi, Neymar, Mbappé étaient le trio voulu par le Qatar en termes d'image pour la publicité que ça pouvait véhiculer pour cette Coupe du Monde, qui a été en soi une très grande réussite, en plus, soit dit en passant. Pas pour les
croiser les joueurs, mais bon, ça, c'est un autre.
Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, globalement, beaucoup avaient annoncé une Coupe du Monde catastrophique, calamiteuse, etc. Et finalement, ça a quand même été une réussite parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements positifs, etc. Mais bon, bref. Et je dis, depuis janvier, je ne vois plus ce même PSG. Je ne vois plus un Nasser Al Khelaifi en calinothérapie tous les week-ends avec les joueurs à défendre X ou Y joueurs. On a un Lionel Messi qui a été acheté un costume chez Zara, qui s'est excusé devant un fond blanc alors qu'il n'avait jamais fait ça au préalable. Il est parti. On a un Neymar qui a été mis de côté. On a même un Mbappé qui n'était pas content. T'es pas content? Eh bien, tu te mets de côté. Quand tu seras content et que tu veux réintégrer quelque chose de positif, tu reviens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les erreurs qu'on a effectuées dans le passé font que c'est vrai qu'on a francisé cet effectif en mettant quelques joueurs de banlieue francilienne. Mais concrètement, comme je l'ai dit, on a aussi encore pas mal d'étrangers sur le terrain. Et c'est à eux aussi de trouver cette homogénéité entre les joueurs français ou franciliens et les joueurs étrangers pour permettre d'avoir cet équilibre et que ça prenne une forme exceptionnelle de ce PSG-là.
Mais en vrai, j'espère que tu as raison, Kev. Et pardon, X, très rapidement, j'espère que tu as raison, Kev. Et en effet, hein, c'est ce que raconte l'histoire. Maintenant, le fait qu'ils soient investis pour Colo, est-ce que ça va rester le cas? Si Nasser reste en dehors, on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Et si jamais Nasser continue à faire, enfin, moi, j'appelais ça la 36-15 hotline Nasser à la grande époque, quoi. Ne serait-ce que le quart de ça, c'est même pas la peine d'espérer y arriver. Il y a peut-être une chance. Et Eve posait une question, c'était est-ce que Deschamps peut appeler Zahir Emery?
Non,
c'est un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt, je pense, et c'est une bonne chose.
Qu'est-ce que j'allais dire, les gars?
Likez, les gars.
Et surtout, abonnez-vous. On est genre à 150 des 10 000.
140.
On est 140, à 140 abonnés des 10 000. S'il vous plaît, abonnez-vous, les gars. Vous êtes 40 000 à regarder. Ça peut prendre 2 minutes. Qu'est-ce que j'allais dire? là où je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, on va clôturer là-dessus parce qu'après on a d'autres sujets à faire, c'est que vous en parlez comme si c'est un truc d'idéologie, alors que c'est la base en fait. On était une anomalie. Le Paris Saint-Germain est une anomalie. Quand tu regardes le Bayern des grandes années, plus de 60%, c'était des Allemands parce qu'il y avait le délire, vous allez jouer en équipe nationale et vous allez jouer au Bayern, donc vous n'avez pas d'automatisme. Quand tu prends le Barça,
les grandes années, c'est la même chose.
C'est encore pire que c'est des Espagnols, il y a plein de Catalans. Donc en fait, les équipes, les grandes années du Barça, il y a au moins 60%, 70% de Catalans dans l'équipe et qui jouaient en même temps en Espagne. Et comme vous avez pu le constater, ça faisait quoi? C'était les grandes années du Barça, c'était les grandes années de l'Espagne en même temps. Tout ce qui était 2008-2012, les mecs, ils ont fait Coupe du Monde, Euro, plus en même temps, le Barça gagne la Ligue des Champions. Le Bayern aussi, l'Italie, c'est un exemple. Il y a très peu de joueurs italiens qui s'exportent. La plupart, avant les grandes années de la Juve, c'était
la grande époque italienne, il y avait quelques Italiens, mais vraiment pas que des Italiens. Il y a même l'arrêt d'Osman qui a été créé par rapport à ça, quoi.
Oui, mais le noyau dur, tu vois des mecs comme Bonucci, tout ça, des mecs, toute leur vie, c'est l'Italie.
Pas de la grande Italie, hein, pas celle
oui,
des années.
Oui, mais
90.
Je vais te dire que même avant les Del Piero qui jouaient à la Juve, etc., il y a toujours eu 4, 5, 6 mecs dans
l'Italie.
La seule différence, c'est le Real. Parce que le Real a tellement une emprise sur le football mondial, comme j'ai dit tout à l'heure, que, entre guillemets, cet effet-là, ils arrivent à le faire avec tout le monde, en fait, toute la planète. Tu vois, Kylian Mbappé, quand il était petit, ils ont réussi à l'attraper, alors que c'est un petit d'Île-de-France, ils ont réussi à l'attraper. Ça, le Real, il n'y a que ce club-là qu'il a, et peut-être un peu Barcelone. City, c'est encore autre chose. City, maintenant, la première ligue, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus d'histoire d'anglais, etc. Limite, ils ont viré quasiment tous les anglais. Et en fait, c'est un championnat d'étrangers.
Stones, Foden et Walker.
Ouais, c'est ça, c'est un championnat d'étrangers. La première ligue, ils prennent meilleurs joueurs de partout et ils les ramènent en première ligue.
Il ne faut pas oublier une chose qui est très, très importante, c'est que contrairement en fait aux joueurs de Ligue 1, qui par rapport au championnat et à sa qualité et ses défauts, ont la capacité à performer dans tous les autres championnats quand ils viennent à partir. Les joueurs espagnols, concrètement, ont beaucoup de mal à s'exporter. Les joueurs italiens également, et les joueurs anglais, pareil. Je parle bien entendu des grands championnats. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en termes de majorité identitaire, c'est beaucoup plus simple pour eux d'avoir aussi cette base, mais il ne faut pas l'oublier aussi. L'Inter Milan, quand il gagne la Ligue des Champions sous Mourinho, étant donné que Thiago Motta était suspendu, avait pris un rouge en demi-finale, n'avait pas un seul Italien sur le 11 de départ. Il y a des exemples et des contre-exemples, donc c'est pour ça qu'il faut.
Mais pourquoi l'Inter, c'est dans le nom, l'international, et ça a été monté en dichotomie contre Milan AC, qui est un club plus italien. L'Inter a tout de suite été un club international. Donc dès lors,
de tous les observateurs, le foot italien des années 90, c'est le plus beau foot ever. C'est là où tu avais les plus grands matchs, la Fiorentina notamment, Parme avec Thuram, la Fio avec, j'ai oublié le nom de la Batigol, etc., etc. C'était le plus grand championnat. C'était vraiment la référence, c'était la crème. Et pas mal d'observateurs disent que c'est l'époque où ça jouait le mieux au foot. Et dans cet âge d'or italien, il n'y avait pas tant d'Italiens que ça.
Hey, mais déjà NDSG, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit 3 Français sur 11 recrues et ça parle de clan.
L'attaque de l'équipe de France, hein. L'attaque de l'équipe de France, c'est pas rien.
Et déjà, les gars, il y a autre chose aussi. Les joueurs d'Île-de-France, en général, ce sont les joueurs qui s'adaptent le plus facilement partout. Il n'y a aucune nationalité que je vois autant répandue partout. C'est des joueurs, ils sont formés, ils peuvent jouer partout. Il n'y a pas de problème d'adaptation, ce genre de choses. Tu les vois en Angleterre, en Allemagne, partout, ils performent. Et je vais encore aller plus loin. Quand vous voyez l'équipe de France, ça fait deux finales de Coupe du Monde d'affilée.
Il y a 70% de Parisiens, en tout cas de Franciliens, dans l'effectif. Donc c'est pas forcément un clan, et surtout quand on parle du PSG, du meilleur club en France et du club référence en France. C'est pour ça que pour moi, ça me paraît un peu…
Vous allez trop vite quand vous disqualifiez la possibilité.
Tu ne peux pas avoir les meilleurs joueurs du monde qui performent. Tu as des Varane au Real, tu as tout le monde, tu as tous tes meilleurs joueurs qui ont grandi à côté de ton club. Ils étaient juste là sous tes yeux. Et ils performent partout pour les meilleurs clubs du monde. Et toi, tu fais rien. C'est pas normal, les gars. Moi, je parle même pas d'une histoire d'idéologie. Je parle d'en fait que le joueur, il est à côté de toi. C'est facile de le surveiller. Tu le récupères, il est bon. C'est tout. Moi, je m'en fous des histoires d'idéologie.
Parce que le problème, c'est que les gars, si on vous pose la question, et je vous dis juste, par exemple, demain, le Paris Saint-Germain, c'est, je sais pas, il y a 11 joueurs, 11 titulaires. Les 11 titulaires, c'est des Franciliens, mais on gagne la Ligue des Champions avec, on va dire.
Si c'est 11 Franciliens et qu'il y a du jeu, et je suis d'accord, si c'est 11 Franciliens, que c'est que dans le combat, la guerre, les tacles, les machins, je ne prends pas.
Donc, si on doit gagner la Ligue des Champions en mettant le but, c'est pas grave, mais on gagne la Ligue des Champions en faisant du tiki-taka, c'est encore mieux. Enfin, c'est le meilleur truc.
Je ne vais pas regarder parce que tu vas réfléchir toute la saison.
Laisse-moi répondre. J'ai commencé à répondre, laisse-moi répondre. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je dis on gagne la Ligue des Champions, je la prends. J'ai pas dit ça. Et encore une fois, si c'est 11 Franciliens, 11 Marocains, 11 Sud-Américains, 11 ce que tu veux, je m'en bats les steaks. Alors après, bien sûr, comme Basto, si ça joue bien, etc., c'est encore mieux. Mais en gros, si tu as une équipe cohérente qui va pour gagner une compétition, qui la gagne parce qu'ils vont la chercher, mais je suis content. Mais le truc, c'est qu'on est traumatisé. On peut pas faire comme si, Lucho González, Luis Enrique est arrivé et le passé QSI n'existait pas. Les révolutions de palais, les promesses de début de saison, on en a vu et on en a revu et on en a sur revu. Et des clans qui ont pourri le vestiaire parce que les clans, tu peux présenter un univers où ça se passe très bien et où finalement le Rubik's Cube, tout rentre au bon endroit. Mais les clans qui flinguent des vestiaires, ça s'est vu à Paris, mais ça s'est vu dans je ne sais pas combien de clubs. Toutes les problématiques de vestiaire que tu n'arrives pas à tenir parce qu'il y a un clan. Et c'est juste qu'on est échaudé. Le passif, il existe. Là, on est tout nouveau. Tu as changé de coach, tu as machin. Tu as un Nasser qui, depuis 2 ans, a une attitude différente. Tu as un directeur sportif. Mais d'ailleurs, récemment, il y avait des nouvelles comme quoi Campos serait peut-être menacé. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. On ne sait pas. Mais on est échaudé. C'est clairement, on ne part pas de zéro. Faut pas oublier que régulièrement, on était les Harlem Globetrotters du foot en Europe. Hein.
Bon, et les gars, on va avancer parce que ça fait 57 minutes.
Il y avait la conférence de presse, là.
Lolo, je te passe la main. On va terminer ce podcast avec
nos pronostics
pour les phases de poule. Donc, je te passe la main. C'est toi qui gères.
Ouais, bon, messieurs, j'ai pris le temps pendant que vous étiez en train de se faire ce très très beau débat. J'ai pas voulu m'immiscer dans tout ça. On va faire, bien sûr, pour poule par poule. Je vais vous refaire les poules dans la tête, comme ça, si jamais vous ne les avez pas, comme ça, ce sera bien. On va commencer par la poule A. Bayern, Galatasaray, United, Copenhague. Basto.
Faut donner le classement dans les qualifiés,
c'est ça? Ouais, t'es deux premiers, le classement.
Munich 1, United 2, hein, pour être original.
Donc, Bayern et United en 2. Tonton Kivzor.
Ouais, je dis pareil, honnêtement. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Ce sera Bayern et United.
Allez, Bayern United, tonton X.
Bayern United aussi.
Ok. Et tonton Andreas.
Faire l'original. Ah non.
J'en étais sûr.
Moi, personnellement, j'ai mis Bayern Galatasaray.
Ah.
Sous-estimez pas United, les gars.
Sous-estimez. Moi, je sous-estime pas United. Mais pour moi, Galatasaray, faut pas les sous-estimer avec leur équipe de.
Mais bon, en couple, le coach de United. Hein.
Attention. Icardi, tout ça. Donc, tonton Drias. Bayern United.
Oui, la même. Ouais, je reste sur la même. Moi.
Ok. On note. Comme ça, après, moi, je vais faire le petit tableau. Calmé. Comme ça, tout va être très, très bon. Poule B, Arsenal, PSV, Séville, Lens, Kev.
Arsenal, Séville, tu m'as dit?
Arsenal, PSV, Séville, Lens.
Arsenal en 1.
Ouais.
Mais après, ça va être une poule assez ouverte. Je pense que même Lens, honnêtement, peut réussir à taper quelques matchs. Mais je pense que ce sera Arsenal, Séville.
Ok, Arsenal, Séville. Drias.
La même chose, Lance la problématique de Lance. Après, là où il y a une chance, c'est que c'est en première partie de saison, mais on a déjà vu un Lance qui est un petit peu poussif, qui a du mal à finir ses matchs, qui les commence très bien. Hein. Ils ont à chaque fois fait de très bonnes premières mi-temps, mais les deuxièmes mi-temps étaient très délicates. Ils ont un effectif qui est limité en nombre, donc quand la multiplication des matchs va venir, ça va être un problème. J'ai envie d'y croire à Lens. Clairement, la France a besoin de points UEFA, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être gagner un match, deux matchs. Et je vois bien avec 7 points, mais qu'ils passent pas ou un truc dans le genre. Quoi. J'ai juste arrivé short troisième. Par contre, je les vois en Europa.
En Europa, ok. Et donc tu mets Séville en deux.
Ouais.
Ok. Basto.
Moi, je pense que Lens sera 4, malheureusement. Le Lens de l'année dernière aurait lutté pour être 3. Je vais dire Arsenal-Eindhoven.
Ah, merci. Merci beaucoup. Et toi, ton X ?
Arsenal-Eindhoven-Séville, Lens.
Ok. Ouais,
je pensais pas que Basto allait dire du bien de Simons. Mais comme
ouais. Moi, pour un perso aussi, pour moi, le PSV passe. Le PSV passe. Après avoir sans s'engarrer, ça va donner quoi, mais pour moi le PSV passe.
Ah oui, c'est vrai qu'il est parti à Nottingham.
Oui, il est parti hier. Il est parti hier, parti hier.
Les gars, sur tous les éléments.
Et ouais. Naples. Poussé, Naples, Real, Union Berlin, Braga. Kevin. Sachant que on met un truc dessus. Militao blessé pendant peut-être plus de 6 mois.
J'ai Napoli en 1 et Real en 2.
Ouais, ah, ok. Donc ça fait Napoli 1, Real. Napoli, Real. Basto, pareil.
Pareil, ouais. Mais pas facile cette poule. Hein. Même l'Union Berlin, c'est pas mauvais.
Mais l'expérience, les gars. L'expérience.
Oui, mais n'oubliez pas, Vinicius va peut-être rater le premier match de cette phase de poule.
Aussi. Aussi. Edrias, pareil, Napoli-Real.
Real a des galères en attaque. Naples, il y a une attente. Il va falloir qu'ils confirment. Ils vont avoir un calendrier dantesque. Alors, j'ai pas bien regardé la profondeur du banc de Naples, mais j'imagine qu'elle n'est pas folle. C'est Union Berlin, c'est une équipe qui a fait chier plus d'un club l'année dernière et c'est une équipe qui clairement s'est jouée au ballon. C'est compliqué, cette poule. Le Real, tu sais, psychologiquement, tu ne peux pas sortir le Real. C'est le Real. Ils jouent mal, ils arrivent en finale. Donc, tu peux pas sortir ce club, mais moi, je vais tenter Union 1, Napoli 2.
Oula,
ah
ouais.
Ah ouais.
Pardon ? Union 1, Napoli 2 ?
Ouais, c'est bien ce qu'il a dit, c'est bien ce qu'il a dit.
C'est son avis, écoute.
Le ticket est sorti du pari.
Oh là là !
Ok. Le côté match est intéressant.
Mais attends, j'espère que tu fais les cotes avec, parce que si j'ai bon là-dessus et que j'ai tort sur tout le reste, je suis premier. Hein.
Oh là là, ok, je note quand même. Bon, je note. Poule D, Inter, Benfica, Leipzig, Sociedad. Nix.
C'est quoi le troisième à part Sociedad à Leipzig? Ah oui, il y a Leipzig. Leipzig 1
Leipzig, ouais. Inter, Leipzig. Benfica, Leipzig et Sociedad.
La deuxième place entre Benfica et l'Inter. Vas-y, on va dire Leipzig, Inter, Benfica, ils ont perdu des joueurs. Vas-y, on va mettre Benfica 3e et Sociedad 4e.
C'est un peu du coup comme le PSG, celle-là, en 4 équipes de même niveau. Enfin, de même niveau.
Ouais. Basto, vas-y du coup.
Je vais mettre Benfica en 1 et Leipzig en 2.
Ok. Kevin ?
Moi, je dirais Inter et Leipzig.
Inter et Leipzig.
Ça va être très très serré. C'est une poule quand même assez homogène.
Ouais, c'est ça. C'est très très homogène. Edrias ?
Leipzig-Inter.
Leipzig-Inter. Moi, j'ai mis mon Inter-Benfica. Comme ça, au moins, c'est sûr. Benfica, valeur sûre, qui passe. Di Maria, il va leur faire un peu du sale, donc ça va faire du
bon. Ah, il a oublié lui aussi.
Mais... Et oui. Di Maria, Neres.
Oui, mais t'inquiète. Ils n'ont pas récupéré Navas, en plus. C'est dommage pour eux. Ils n'ont pas de gardien. Ouais.
Mais ils ont récupéré Juan Bernat, donc ça va aller. Ça va très, très bien se passer.
Pour eux... Nul en prono, n'écoutez pas. Hein.
Ouais, on va voir. Union Berlin. Atletico, Feyenoord, Lazio, Celtic. Tonton Kevin. Ouais.
Atletico,
Feyenoord, Celtic et qui
Lazio.
Lazio.
C'est quoi ce groupe de
Atlético de Atlético 1.
Ouais, après, c'est pilou.
Bien sûr, l'année dernière, ils sont sortis. Hein.
Ouais, mais ils étaient dans un plus grand groupe.
Justement.
Ah, moi, je me suis des billes.
Je pense que
Feyenoord.
Honnêtement, je.
Ouais, c'est un groupe de nuls, en fait.
C'est un groupe de nuls, honnêtement. Donc là, j'ai une chance sur trois. Donc, tu m'as dit, c'est Feyenoord, Celtic.
Feyenoord, Lazio, Celtic et Atletico.
Atletico 1, Lazio 2.
Lazio de Sarri.
La même.
Basto.
La même.
Atletico, Feyenoord.
Ok, c'est ce que. Moi, j'ai mis Feyenoord aussi. Nyx.
Atletico, Lazio 2.
Atletico, Lazio. Nickel. Au moins ça passe. Poule F.
A priori,
la très bonne poule.
Il nous dit qu'on s'est planté et que Leipzig est en groupe de City. T'es sûr que t'avais les bons groupes du coup?
C'est pas ça,
le
planté,
c'est vrai. Ouais. Mais non.
Ah
oui, non, pardon. Non, c'est Salzbourg.
Ça change. Ça change. Du coup, Benfica et l'Inter.
Donc Benfica et Inter pour Onyx.
Inter 1 et Benfica 2 pour moi aussi.
Moi, Benfica 1, Inter 2, du coup.
Et moi, Benfica 1 et Inter 2.
Donc Benfica... T'as mis Inter devant Benfica tout à l'heure.
Oui.
Mais
je change parce que, en fait, si tu veux, c'est là où tu comprends pas, c'est que ça, le fait de changer d'équipe, ça a changé complètement la dynamique du groupe. Du coup, les matchs ne sont pas pareils.
Attends, je répète. Nyx t'a dit Benfica Inter. Kevin t'a dit Inter Benfica.
C'est ça.
Dreas t'es Benfica Inter et Basto Benfica Inter aussi.
Exact.
C'est ça. Ok, nickel, c'est bon.
Le groupe de Manchester City, tu l'as zappé du coup.
Non, il est là, je l'ai le groupe de City, je l'ai. C'est Manchester, Leipzig, on va le faire du coup, c'est le groupe G. City, Leipzig, Young Boy de Berne et Belgrade.
Ouais, bon. Je pense que tout le monde va être unanime. City, Leipzig, allez.
Oui, City.
Bon, être mauvais, celui-là.
Après, on sait jamais.
Tu fais pas nous dans tes City 3, Dryas, avec.
Il va mettre Belgrade 1, vas-y, flemme. Poule H, avant qu'on fasse la dernière de la mort. Poule H, Barcelone, Porto, Shakhtar et Antwerp.
Dans cet ordre-là, du coup.
Barcelone, Porto.
Il y a beaucoup de joueurs en plus.
Aussi.
Mais Shakhtar peut être chiant et les déplacements en hiver. Après, ça dépend où est-ce que c'est organisé.
Terrain neutre.
Ce sera pas en Ukraine.
Mais où il est le terrain neutre? Si c'est vraiment dans l'Est, là où il fait super froid au mois de novembre. Ça peut jouer.
Après, peut-être le problème, c'est qu'ils ont perdu vraiment beaucoup de monde, les gars. Ça va être Barça-Porto.
Moi, je mets Porto 1, Barça 2.
Tu mets quoi? Tu mets Porto en premier?
Porto 1 et Barça en 2.
Ah ouais?
Ok.
Ouais. Ils ont perdu leur milieu, je crois.
Ils ont perdu leur milieu, mais ça joue bien, sous Conceição. Donc, franchement, moi, quand je les avais vus jouer contre l'Inter, c'était vraiment super intéressant l'année dernière. Et des bonnes phases avec ballon, sans ballon, tout ça, franchement, c'est pas mal le taf qu'il fait. Et la dernière, la poule de la mort. Donc Paris, Milan, Dortmund, Newcastle. Moi, je me mouille déjà. Moi, j'avais mis Paris-Milan, comme d'hab. Et voilà.
Paris-Newcastle.
Oh. Ça, je note ça.
Paris-Milan, Newcastle, Dortmund, quatrième.
Milan-Newcastle, ok. Basto.
Dortmund 4, Paris 1, ça c'est sûr. Pour moi, Paris, je vais partir sur Newcastle aussi. Milan m'impressionne pas.
Moi, je fais Newcastle parce que Milan, je n'y crois pas. Il y a Léao et Maignan, mais...
En fait, les gars... Leur milieu,
vous êtes 3 à mettre Newcastle en 2 quand même.
Moi, Newcastle me fait plus peur que Milan. La seule chose pourquoi j'ai mis Milan avant, c'est parce que Newcastle, chaque week-end, force à vous. Parce qu'il va y avoir des matchs de Ligue des Champions entre Liverpool et City, il va les faire. Et ils n'ont pas d'expérience. Moi, je pense que ça va péter. Après, moi, je pense que sur un match, à Newcastle, ils explosent Milan. Mais je vais mettre Milan.
Mais
Newcastle a une assise défensive bien plus costaud que le Milan, les gars.
On les connaît pas tant que ça. Et c'est difficile de vraiment les apprécier. Parce que comme tu dis, ils n'ont pas d'expérience. Ça peut partir dans une direction, mais ça peut aussi partir dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir encore plus le cliché de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est l'équipe à laquelle c'est quasi impossible de mettre un but. Et ils ont toujours, mine de rien, la capacité d'en mettre un. Et si c'est le cas... Aller mettre des points contre eux, ça sera compliqué.
D'ailleurs, je vous dis, le début de saison de Milan AC, c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Hier, le match contre la Roma, c'est très costaud.
Pas mal, mais...
Roma, c'est dégueulasse, c'est horrible. Roma, mais ce qu'ils font avant, c'est costaud. Non, le milieu de terrain, c'est costaud aussi.
Giro, la Roma, ils sont en dernier de Serie A, les gars.
C'est Giroud qui flambe vénère, à ce qu'il paraît.
Bah, ok, ok. Il y a le calendrier qui est sorti pour Paris, c'est pas mal. On commence par Dortmund à domicile. Qui est
c'est exactement ce que j'avais dit.
C'est top, ça.
C'est Van Newcastle.
Et au cas où, tant qu'à faire, messieurs, dames, si quelqu'un peut me trouver des places pour Milan, j'ai déjà pris le billet d'avion.
Moi aussi, j'ai pris les billets. On a pris les billets et on est en train de faire tout pour Newcastle. Donc c'est
bon. Bah, vous allez faire un micro-trottoir là-bas, du coup. Le mec, le forceur, là, qui...
Vas-y. Si on peut se faire ça, il n'y a pas de problème.
Moi, je ne vais pas te mentir, Nix. J'aurais pris l'apéro, donc vaut mieux pas.
Bah, tu filmeras pendant que Lolo... ça ne va pas faire une vidéo très droite.
Non, Lolo, il va à Newcastle. Moi, je vais à Milan.
Ah. Moi, je veux tous les faire, moi. C'est bon, ça y est.
Ah,
c'est...
Okay.
On est en train de tout prévoir.
Je crois que chez Peugeot, il y a beaucoup de congés chez Peugeot, putain.
Non, c'est pas nous. C'est pas nous.
Si on avait fait un des trois, ça aurait été Dortmund. Hein. J'ai jamais été dans ce stade.
Ouais. Je crois que Barry, il va à Milan aussi, en plus.
Non, mais là, c'est le truc à faire. C'est pas si cher que ça, les prix. Les prix, juste avant le calendrier,
étaient... l'aller-retour, l'avion, pour moi.
C'est ça.
Ah ouais, depuis où j'habite, en plus...
Ah oui,
ouais.
Ah oui. Et moi j'ai regardé tout à l'heure, c'était 120 minimum. Hein, donc,
ça sera bientôt fini, ça, les billets d'avion pas cher. Ça va se calmer. Non, mais c'est parce qu'il y a les avantages en taxes, donc c'est pas tarder à sauter. Ça en discute de plus en plus. Si vous voulez prendre des billets pas chers, faut en profiter.
Il doit y avoir un Marseillais dans les commentaires, il a dit prendre ses billets pour une défaite, c'est dur. Bon, à part si c'est un Parisien qui parle de vécu, parce que franchement, les mecs qui ont dû aller
t'inquiète,
voir la
remontada... T'inquiète, j'ai l'habitude, j'étais au Camp Nou, donc...
Bah voilà, les mecs qui ont été au Camp Nou, franchement...
C'est qui avait mis ce commentaire, c'était un Marseillais ?
Ah, je sais pas, si ça se trouve, c'est un Parisien qui a déjà été peut-être au Camp Nou, un truc comme ça.
J'espère que c'est pas un Marseillais, parce qu'on aura la télé pour les regarder contre l'Ajax. Hein.
Nix, je voulais juste dire, il y a eu pas mal... Toi, Kavzor, tu me disais que c'était pas vrai, j'ai eu pas mal de commentaires, je me permets juste de mettre ça. En gros, vous tapez Enrique 2015 Barcelone Xavi Iniesta et vous aurez le papier qui explique très clairement qu'il y avait quelques soucis de vestiaire et qu'il a dû céder Enrique, contrairement à ce qu'on disait. C'est Enrique n'a pas tenu justement au Barça avec sa ligne jusqu'au bout. Il a dû dévier une ligne sous la pression du vestiaire, notamment par Messi et Xavi Iniesta. À partir du moment où il a fait rentrer Rakitic et il voulait mettre un peu sur une aile Messi. Et il n'a pas pu le faire jusqu'au bout de la saison, en dépit du fait d'avoir gagné énormément de titres, etc. etc., etc.
Oui, et donc, l'OM, après les zéro victoires en Ligue des Champions, on va avoir les zéro victoires en Europa League.
De toute façon, je ne parle pas avec des mecs qui, sur les 24 derniers matchs, en ont perdu 19 et en comptant une victoire quand ils se font éliminer au tir au but. Quoi. Donc, ça ne sert à rien de parler de 93. Moi, je parle des 24 derniers matchs.
Rendez-vous dans 3 semaines, c'est tout. Rendez-vous dans 3 semaines au Parc des Princes, c'est la seule chose à dire. Non, mais en tout cas, c'est bon. Moi, j'ai noté, je vais vous faire le petit graphique et puis comme ça, derrière,
vas-y, on va poster ça. Fin décembre, on verra
qui avait raison. C'est pas que tu vas mettre une bonne cote pour, je sais plus ce que j'avais mis avec
Union Berlin,
Naples, my god.
Voilà, j'espère que tu vas mettre une belle cote pour ça, je compte sur toi.
Clairement, je transpire.
Si je gagne là-dessus, je tue le game. Hein.
Non, c'est juste
pour le tuer. Mets un billet.
Ah ouais, bah.
Ça ira, merci.
C'est quand même dommage d'avoir raté Sangaré, surtout au tarif où il part. Moi, je pense que Luis Enrique, il ne le voulait pas, parce que vu le tarif.
Je pense que, ouais, clairement, si Luis Enrique l'aurait voulu, on l'aurait eu, je pense.
Et t'as vu, du coup, Kav, le papier Enrique, il est facile à trouver. Hein.
Je vais regarder après.
C'est Eurosport la source, donc c'est plutôt sérieux. Tu tapes juste Enrique 2015.
C'est un bilan de fond au Barça qui avait fait un bilan complètement
incroyable. C'est le Promélien qui arrive en général.
Bonne question. Est-ce que vous voyez Ndour jouer bientôt ou pas? Parce que zéro temps de jeu.
Pourquoi on l'a pas prêté?
Après, il peut peut-être se métamorphoser, mais sur ce que j'ai vu, pour moi, il m'a l'air emprunté un peu bourrin. Il avait fait les bonnes passes, mais la réalisation des passes était en deçà de ce que tu peux attendre. Très très lent dans ses déplacements, très lent dans ses prises de décision. Peut-être qu'il peut se métamorphoser, mais c'est un joueur.
On l'a comparé à Pogba, c'est plus Nzonzi dans le style. Quoi. Mais,
Après, de toute façon, on verra bien. C'est un jeune joueur qui a 18 ans. Il y a des, en fait, il y a des joueurs qui. Faut, en fait, tout le monde n'est pas Zaïre Emery ou Mbappé ou d'autres joueurs.
Ils
en fait.
Sur le tas.
Tu vois, Barcola, il a 20 ans et il s'est dévoilé l'année dernière. Quoi. Et encore, sur, l'année dernière, j'exagère, mais de janvier c'est à juin. Quoi. Donc, tout le monde en fait, n'est pas précoce comme certains joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin d'adaptation, de travailler correctement. L'entraînement, il est entouré de très bons joueurs. Donc voilà, à lui de travailler. De toute façon, je pense que Henrique est le coach idoine pour les jeunes joueurs. Et s'il est performant et qu'il travaille bien à l'entraînement, on le verra. Et peut-être que ce sera une surprise.
Le meilleur exemple de ça, ça reste et ça restera Didier Drogba. Le mec, avant 26 ans, il ne vaut rien. Puis à 26 ans, il explose au point de devenir le meilleur attaquant du monde pendant... Enfin, 2-3 ans après, le meilleur attaquant du monde sur les 4 années qui suivent. Rien que ça. Alors qu'à 25 ans...
Enrique l'a redit en conf, il ne voulait pas de milieu axial en plus. Non, mais de toute façon, Enrique, ce qu'il dit en conf, faut pas trop l'écouter. Lui-même, il le dit. Par contre, ça me fait trop rigoler quand il dit ne faites pas attention à ce que je dis et regardez ce que je fais. C'est limite politiquement correct. Il peut rien dire, donc il te dit ce que tu veux entendre. Et après la feuille de match, boum, pas de Verratti dans le groupe. On s'en fout. Et en conf, il va te dire, Verratti, 10 sur 10, hein, franchement, parfait, nickel. Et après,
vous avez vu un petit peu les déclarations de Luis Enrique tant qu'on est. Parce qu'il y avait sa conférence de presse en live à 13h, les gars.
Ouais,
du coup, étant donné qu'on est en live, j'ai quelques. Ça vous intéresse. Donc, Luis Enrique sur le trio Dembélé, Colomoigny, Mbappé, nous avons des options infinies de la qualité. C'est sûr que si les joueurs se connaissent bien, c'est mieux. Avec le staff, on va travailler à trouver les meilleures associations. Je prends cela comme un défi personnel. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'autre sur l'absence de recrues supplémentaires au milieu. Je pense que nous n'en avons pas besoin. On a suffisamment de joueurs dans ce secteur. Je suis convaincu qu'on a assez de solutions pour faire la saison avec des joueurs. Sur le cas Verratti, sur Marco, je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n'ai rien à dire de plus. Les conseils que j'ai pu lui donner aussi restent du domaine privé. Qu'est-ce que je peux trouver ? Tac. Là, c'est les trois phrases un petit peu archétypes que j'ai trouvées rapides. Mais bon.
Ouais.
Pour moi, il veut vraiment plus de Verratti. Pour moi,
je pense pas que ce soit ça.
Il y a la question là. Le papier de l'équipe du jour, c'est que ça se dessine très bien, qu'il y a que jusqu'au 18 pour que ça se fasse. La Verratti ne va pas avec. Il n'est pas sélectionné avec la nationale. Et donc pendant cet intervalle, ça devrait accélérer. Et a priori, ça va être signé pour légèrement en dessous de 50. Les dernières tendances sont. Ça va être fait.
Mais c'est de sa faute.
Moi, l'info que j'ai aussi qu'on m'a donnée là. De quelqu'un d'assez fiable, c'est que Verratti va partir pour 50
oui,
millions, on m'a dit.
Oui, mais
un chouïa en dessous de 50. Il est sur le départ.
15 millions.
Mais faut revenir sur les faits, parce que là, je vois que tout le monde tombe sur le club parce qu'on pousse Verratti vers la sortie. En fait, ce qui est triste avec Marco Verratti, c'est qu'il est en décalage avec la réalité. Et souvent, dans ses déclarations, ce qu'il dit, t'as l'impression qu'il comprend rien. Et là, en fait, c'est lui, au départ, qui a poussé pour partir. Le problème qu'on arrive là, c'est que en fait, Verratti, quand il a demandé de partir, il pensait que la Juve, le Real, le Barça, tout le City, tout ça allait venir chercher. Et au final, personne n'est venu.
Qui est venu? Nix.
Galatasaray.
Il y a eu des contacts, les gars. Il y a eu des contacts avec Chelsea, avec le Bayern, avec l'Atlético, d'autres clubs. Mais en fait, le problème, c'est que le PSG était bien trop gourmand en termes de transfert pour ces clubs-là.
50 millions, Kevzor, pour soi-disant meilleur.
Je suis d'accord. Mais depuis deux ans, en fait, ce tarif-là est quand même élevé.
C'était Galatasaray. Hein. Le seul truc qui a filtré où le PSG était trop gourmand en Europe, c'est Galatasaray.
Oui, parce que Galatasaray nous proposait 5 millions.
Dès le début de juillet.
Mais j'ai pas entendu parler d'un autre club européen.
Ça, je te le dis. Après, les gens me croient pas, je m'en fous. Tu vois, c'est un proche de Verratti qui me l'a dit. Mais en fait, le PSG était vraiment trop gourmand. C'est pour ça que c'est comme Neymar en fait. Neymar, on n'aurait jamais pu le vendre en Europe au tarif qu'on l'a vendu en Arabie Saoudite.
Il va prendre avec ses blessures. Mais...
Oui, bien sûr. Et puis Verratti aujourd'hui, de toute façon, il est plus en adéquation avec le football moderne. Et ouais. il a juste envie de kiffer. De kiffer, jouer au ballon et basta.
Oui, mais là, en fait, il n'a pas envie d'aller au Qatar. Là, on se retrouve dans une situation où, en fait, il a voulu partir. Il n'a pas eu les clubs qu'il voulait. Mais là, du coup, vu qu'il a voulu partir, le club lui a dit, on te met de côté. Et là, maintenant, le club est vraiment en train de le pousser vers le Qatar. Mais au départ, c'est lui qui voulait partir. C'est après que tu n'aies pas eu les clubs que tu veux, c'est pas notre problème, entre guillemets.
Ouais,
mais non, là, en fait, il n'a pas envie d'aller au Qatar, clairement. Mais c'est la seule option qu'il a, c'est tout.
Non, mais de toute façon, il va partir. Il veut partir, le club veut le faire partir. Donc voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Et moi, j'espère juste que le concernant, il y en a beaucoup qui lui crachent dessus gratuitement, mais j'espère qu'il aura quand même un bel hommage parce que c'est un joueur.
Ouais, moi aussi.
C'est quand même clairement un joueur qui, pour moi, est rentré dans l'histoire du PSG. Et j'espère qu'il aura un hommage au parc digne de ce nom avant son départ.
Mais il mérite cet hommage. Moi, pendant des années, ma vision de Verratti, elle a changé à cause des deux zigotos là, qui sont en bas. Moi, quand j'ai commencé le podcast, je ne sais pas si vous allez réécouter les premiers trucs sur Verratti. Verratti, c'était étoile dans les yeux. Depuis le début, à chaque fois, je disais si, parce que moi, je n'ai jamais floqué aucun maillot. Avant le Real, parce qu'après, ça a vite dégénéré ce que j'avais dit ce jour-là. Je me rappelle, pour les podcasts, j'ai dit, si jamais un jour je floque un maillot, ce sera Marquinhos ou Verratti. À l'heure actuelle, je ne ferai jamais aucun de ces deux-là. Mais c'était les mecs qui étaient là depuis longtemps, qui étaient cadres. Et Verratti, c'est vrai que je me suis beaucoup attaché à son jeu avec ballon, comme beaucoup de personnes. Et à force de parler avec les deux têtes là d'en bas, là, qui n'arrêtaient pas de pointer son jeu sans ballon, je commence à de plus en plus regarder son jeu sans ballon. Et c'est vrai que collectivement, il y a des manques. Et comme on dit, en fait, c'est typique le joueur que tu aimes bien voir individuellement, mais collectivement, c'est
comme si c'était un Titi. Pour moi, Verratti, il arrive très très jeune. Exact.
Complètement. Et en plus de ça, tu sais, les récupérations de balles dans la surface, on était tous en train de se... Tu avais l'impression de t'arracher les cheveux, même quand tu n'avais plus de cheveux, tellement c'était ouf. Tu t'avais, tu sais, tête à claque, c'est le mec, il faisait n'importe quoi, sauf qu'il s'en sortait avec maestria à chaque fois. Et t'étais obligé d'être fan. Moi, un des moments marquants pour moi de Marco Verratti, c'est Marco Verratti qui fait une faute. Pour faire une faute, il baisse le froc du mec, quoi. Il baisse
ouais,
le short
du mec. Il s'allonge à lui quand il courait, ouais.
Ça, mais c'est, voilà, il n'y a que lui qui peut faire ça. C'était l'arlequin du football. Et comme l'a dit Nyx, individuellement, c'est un joyau. Après, c'est juste que collectivement, il t'oblige à des adaptations qui sont complexes. Le dernier, pour moi, grand Verratti, c'était sous Emery. C'était avec un trio tournant au mois de novembre avec Draxler et Rabiot. Et c'est la dernière fois où je l'ai vraiment vu cohérent. Il y a Pochettino qui a essayé de le faire jouer en 10 pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut jouer devant le ballon. Mais il a fini par laisser tomber. Il n'y a rien à faire. Gars, il ne sait pas jouer devant le ballon. Il ne sait pas défendre en zone. C'est
sous compliqué. Pochettino, il a des matchs références, les gars. Déjà, le match aller contre le Real Madrid, il y en a beaucoup qui l'oublient quand on se fait éliminer au match retour. Il fait une masterclass à lui tout seul parce que certains disparaissent, etc. Revoyez le match. Il éteint à lui tout seul Modric, Kroos, Casemiro. Contre le Barça, quand on leur met une volée là-bas, il fait une masterclass. Contre le Bayern,
t'exagères un choix, mais en soi, je suis d'accord avec toi, avec tous les coachs, il a un match référence. La problématique de Marco Verratti, encore une fois, ce n'est pas individuel, c'est comment est-ce que tu organises un collectif pour optimiser le collectif avec lui. Et il est là le problème de ce joueur.
C'est la complémentarité des joueurs qui lui ont été mis autour aussi qui n'était pas bonne.
Le problème de Marco, c'est que même si on l'aime beaucoup, déjà, il y a le problème collectif que j'ai pointé. Et il y a tout ce qui est extra-sportif aussi. Tu ne peux pas me dire que ça fait 10 ans, frérot, t'arrêtes pas de fumer. T'es un joueur... Et on en connaît beaucoup des joueurs de foot professionnels qui fument en fait aussi régulièrement que Marco. Qui ?
Ouais, il y en a plein qui fument. J'ai pas de nom, mais il y en a plein qui fument. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que Marco n'est pas discret. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois une photo de lui sur Insta,
exactement,
il est coupé. En fait, la photo, elle est coupée, tu ne vois pas son bras, c'est-à-dire qu'il y a une clope sur le bras. Et le problème, c'est qu'il n'est pas discret. Et malheureusement, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens, en fait, ils sont réducteurs par rapport à la cigarette. Hein. Mais tous les joueurs qui fument des chichas, les gars, je vous invite à prendre connaissance. C'est pire de fumer une chicha qu'une cigarette.
Tous les joueurs sortent. On avait dans le casier à l'époque. Donc.
Mais oui, tous les joueurs sortent, etc. Malheureusement, à Paris, et c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit, à Paris, la ville n'est pas pareille, les médias ne sont pas pareils. C'est une ville qui est très dangereuse, Paris. Malheureusement, quand tu as de l'argent, contrairement à d'autres villes. Mais oui, après, il n'a pas été très professionnel, etc. etc. Il n'y a pas de souci.
C'est ça. Et il est tout le temps dehors la nuit. Là, oui, c'est même Paris. Oui. C'est ma Pariolo qui parle. Hein. Moi, j'habite à Paris, les gars. Je sais ce que je dis.
Il n'y a même pas besoin d'habiter à Paris.
C'est pas la clope en soi. C'est pas la clope. C'était
c'est tout. L'hygiène de vie.
L'hygiène.
En fait, au-delà de Marco lui-même, en fait, quand tu fais un nouveau cycle, tu repars sur une autre génération. Tu peux pas avoir un mec comme ça dans le club qui montre l'exemple, genre en mode au Paris Saint-Germain, on peut faire ça. Là, à la limite, quand les jeunes ils arrivent, tu le remercies gentiment et tu lui fais l'hommage, tout ce que tu veux. Mais tu dis clairement aux jeunes que ce genre d'hygiène de vie, tout ça, c'est pas possible. Pas possible au Paris Saint-Germain, t'es un joueur de foot. Et puis,
Luis Enrique, avec le professionnalisme qu'il demande, le nouveau centre d'entraînement, etc., etc., tous les suivis qu'il va y avoir, voilà, hein, y aura quand même quelque chose de totalement différent. Mais par contre, ne croyez pas, les gars, que tout le monde ne fait, qu'il n'y a qu'au PSG que les joueurs sortent, qu'il n'y a qu'au PSG que les joueurs fument, etc. etc.
C'est vraiment pas ce qu'on dit.
Je parle pour les commentaires, surtout, Adrias.
Mais tu vois, par exemple, on pourrait faire l'analogie, il va un peu moins loin qu'aller Ronaldinho. Mais quand même, dans ceux qui vont loin, il est allé assez loin. Et il n'a plus tout à fait le même coffre, il ne met plus autant de temps à se remettre d'un gros match, etc. Et à la question, j'essaye de répondre à la question
dans le commentaire. Nick, il ne faut jamais lancer Verratti avec Dryas dans le podcast, sinon on part une heure de hors sujet.
Ouais. Ouais, voilà. Si Huberté se blesse, c'est qui? Tu as notamment la solution Marquinhos, tu as la solution Warren Zaïre-Emery,
tu as Thomas des solutions. Luis Enrique a dit que Barcola pouvait jouer neuf avec lui. C'est un peu ça, je le vois pas.
Ils veulent transformer en Colomani. On va avoir deux Colomoni comme ça.
Non, mais après, de toute façon, on n'est pas à l'abri d'une surprise au milieu de terrain. En soi, en l'occurrence, tu vois, je parle d'un Endur. Éventuellement, peut-être.
Endur 6.
Non, je parle pas 6. Dans la rotation. Ouais, après, en 6. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, n'oubliez pas Marquinhos, qui par rapport à son profil de joueur, l'intensité qu'il met avec et sans ballon, etc. Il peut correspondre à un remplacement quand tu auras tout le monde derrière de disponible, un Ugarte. Il va chercher les joueurs assez haut, il est bon techniquement, il gagne beaucoup de duels aussi, Marquinhos, parce que certains pensent que, mais c'est quand même un joueur qui, quand il était au milieu, sous Tourelle, et qu'on fait finale au Final 8, les gars, n'oubliez pas, c'était un rôle plus ou moins que Ugarte a. Il allait chercher les ballons assez haut, il poussait son équipe de temps en temps à aller récupérer des ballons plus haut. C'était pas pareil, mais en termes de profil, c'est le joueur qui, dans l'effectif, peut y correspondre le plus proche. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez.
Oui, complètement. Et il y avait un commentaire pour Grealish. Mais Grealish, on en reparlera parce que Marco Verratti, ça fait 7-8 ans que c'est ses problèmes.
C'est ça.
Grealish, ça fait 2-3 ans. On en reparlera dans 5 ans et on verra où est-ce qu'il en est, Grealish. Peut-être qu'il en 4 ans. Mais...
Oui, Marco faisait pas tout ce que Grealish y fait. À 22 ans, 23 ans, ça passe. À 30 ans, j'ai vu un commentaire passer tout à l'heure, vous n'allez pas voir Verratti faire les courses que Vitinha et Zaïre-Emery font dans un match.
Les gars, une chose, là-dessus, sur l'aspect extra-sportif, il y a des joueurs qui peuvent avoir une hygiène de vie de merde jusqu'à 40 ans et être performants. À proportion gardée, bien entendu, hein. Mais Diawara, quand il avait repris une hygiène de vie correcte, son coach lui avait dit, t'es nul, il lui a dit, vas-y, va te défoncer et reviens. Et le lendemain, il était déchiré, il avait fait un top match. En fait, il faut pas...
C'était Jean-Louis Gasset qui lui a dit ça.
Non, mais vraiment, il faut en fait prendre en compte que la physiologie d'un joueur est totalement différente d'un autre. Il y a des joueurs qui arrivent à récupérer... Et leur corps, je ne sais pas comment dire, mais c'est extrêmement difficile de connaître en fait, le corps humain, etc. Et il y a des joueurs qui ont ce besoin d'être au niveau extrasportif, de s'évader, parce que sinon, ils vont être trop concentrés, ils vont faire trop d'erreurs. Et Grealish, par
j'entends, exemple... J'entends, mais il y a un truc, tu vois, c'est que tu ne peux pas ignorer qu'avec l'âge, une personne récupère bien mieux qu'une autre, même si la personne récupère bien mieux, avec l'âge, elle récupérera de moins en moins et ça coûtera de plus en plus cher. Ça, c'est inévitable, en fait.
Bah écoutez les gars, on va se quitter sur ces mots, ça fait une heure et demie qu'on est live. Rendez-vous demain soir pour le débrief qui sera probablement animé par Tonton. Et puis voilà, passez un bon week-end les gars. Et likez s'il vous plaît, abonnez-vous les gars. En fait, si vous voulez que j'arrête de le dire, juste faites-le. Après les 10 000, je ne vous casse plus la tête. Genre juste abonnez-vous, vous n'allez plus m'entendre le dire jusqu'à ce qu'on atteigne les 19 000, donc vous avez le temps. Donc voilà les gars, passez un bon week-end et puis n'oubliez pas que ici c'est Paris.
Ciao, bon week-end les gars.